Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Cube Radio.
Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson.
Cube Radio.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous sur Cube cet après-midi. On va être ensemble pour les deux prochaines heures et demie. Tout plein de sujets aujourd'hui pour vous. On va parler du manque de personnel en soins infirmiers, en santé. On le sait, là, le premier ministre Legault qui a dit que la pénurie d'infirmières, ça l'empêchait de dormir. Christian Dubé qui fait des pieds et des mains aussi pour réussir à signer des conventions collectives, réussir à s'entendre avec la FIC, dit enjoint le personnel de la santé d'attendre avant de prendre des décisions, là, que ces ententes-là soient signées justement. Puis on va parler avec une dame, Amélie Perron, cofondatrice de l'Observatoire des infirmiers et des infirmières, qui est prof aussi à l'École de sciences infirmières, parce que moi, je n'ai pas la prétention de dire qu'on va faire le tour du sujet puis qu'on va apporter des solutions aujourd'hui, mais on va essayer de comprendre si le problème des infirmières et des infirmiers, c'est seulement l'affaire du temps supplémentaire. Parce que je pense que comme dans tous les corps de métier, l'enjeu, c'est souvent pluriel. Ça a des raisons qui remontent à longtemps. C'est un problème, les infirmiers et les infirmières, là, c'est un problème qui est endémique. C'est la façon dont on gère le système. Puis j'ai envie de dire, je suis allée au privé la semaine dernière pour subir un examen médical. J'ai payé parce que je voulais le faire maintenant. Je voulais avoir des résultats maintenant. Puis ça, d'ailleurs, je vais vous en reparler quand je vais avoir les résultats parce que ça parle de l'hormonothérapie. J'écoutais le documentaire L'automéno de Véronique Cloutier où on parlait des troubles dysphoriques liés aux règles. Les filles qui ont des PMS vraiment intenses, là, que ça leur crée toutes sortes de problèmes physiques, psychologiques. Moi, je pense que j'ai ça, donc je veux le savoir. Bon, donc tout ça pour vous dire que je vais vous reparler de ça, mais je suis allée faire un test, donc faire un bilan hormonal. J'ai vu une médecin au privé qui est spécialistes des hormones bioidentiques qui sont pas, by the way, remboursées par la Société d'assurance maladie du Québec. Je vois pas, tu sais, puis je vais mettre 8 paires de gants blancs, là. Mettons que je suis une infirmière puis que je goûte au privé, je sais pas dans quelle mesure tu vas être capable de me ramener dans le réseau public. Je veux dire, les conditions de travail, la façon dont les affaires se déroulent, personne crie, personne n'est impatient, tout le monde est content d'être là, tu sais que tu vas te retourner chez vous, t'es bien payé, ça se passe dans le respect. Donc vraiment, j'ai hâte de voir qu'est-ce que le gouvernement Legault va être capable de mettre en œuvre pour ramener ces gens-là, parce que pour être capable de pallier à la pénurie d'infirmières, il va falloir en ramener dans le système public. On va parler aussi avec une ex-mairesse en Haïti, ex-mairesse de Piétionville, Ivanka Jelker-Brutus, de la situation en Haïti. Là, le procureur en charge du dossier de l'assassinat de Jovenel Moïse, limogé par le premier ministre haïtien, qui a demandé que le chef d'État soit interdit de sortir du pays pendant les procédures, parce que là, c'est le premier ministre qui aurait rapport là-dedans. C'est un espèce de sac de nœuds. Puis moi, je suis pas une spécialiste d'Haïti, mais j'avais vraiment envie qu'on aborde ce sujet-là aujourd'hui. Mais d'abord, c'est passé un truc hier qui a beaucoup fait jaser sur les médias sociaux et qui continue de faire jaser. On a, vous le savez, des manifestations, des personnes qui sont contre les mesures sanitaires, des personnes qui sont anti-vaccins, qui ne veulent pas que les enfants se fassent vacciner. On a des manifestations devant les écoles, devant aussi les établissements de santé. Devant les écoles, ça vient vraiment chercher les gens. Là. Moi aussi, en particulier, vous le savez, là, je trouve que c'est vraiment pas l'endroit où manifester. Et hier, ces militants anti-vax sont débarqués à l'école secondaire Robert Gravel avec des porte-voix. On est avec une élève, Marion, qui est une élève du secondaire, justement, à l'école Robert Gravel. Marion, salut.
Bonjour.
Bon, Marion, on se connaît un petit peu dans la vie, fait que je vais te dire tu. ça te va-tu? Oui. OK. Est-ce que tu es en secondaire 1, c'est ça?
Oui, exactement.
Donc, tu as 12 ans. Je commence par te demander, j'imagine que tu es vaccinée?
En fait, j'ai eu 12 ans le 10 septembre, donc je suis vaccinée une dose depuis maintenant trois jours.
OK. Puis est-ce que tu étais contente d'aller te faire vacciner?
Ben, j'étais vraiment contente que cette étape-là soit faite parce que maintenant, c'est rendu que c'est un besoin d'aller se faire vacciner. Là. Surtout dans ma famille, tout le monde était vacciné, alors c'est bien qu'on mette que tout le monde soit vacciné au complet.
Bon, parlons de ce qui s'est passé hier à ton école, à l'école Robert Gravel, des manifestants qui sont débarqués. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
En fait, un homme est débarqué avec un porte-voix et ils ont chanté une chanson aux élèves. Si vous n'êtes pas vacciné, tapez des mains, etc. Et ils ont crié de ne pas les faire vacciner, que le vaccin, ça ne servait à rien, etc. Et même qu'il y avait un petit troupeau d'élèves qui les écoutaient. Là, ils avaient un petit public.
Donc, des élèves étaient interpellés par leur message, un petit nombre d'élèves.
Oui, en fait, c'est que la plupart riaient d'eux, genre la plupart se marraient.
Ouais.
Mais c'est aussi que... ben c'est ça, donc ça veut dire que tu on entend crier devant notre école, tu tout le monde se demande c'est quoi, tout le monde se rassemble, c'est l'heure du dîner, donc tout le monde est un peu partout autour.
OK, puis toi quand tu les as entendus scander toutes sortes d'affaires, parce qu'il y avait quand même des trucs assez intenses comme on n'est pas des violeurs d'enfants, là, comment tu t'es sentie?
Ils ont dit à la police que c'était pas des violeurs d'enfants, mais ils l'ont pas crié dans le porte-voix. Okay. Mais moi, comment je me suis sentie, c'est que je me suis dit, ben au début, je me suis dit, est-ce que des gens pourraient y croire? Est-ce que des gens pourraient penser que toutes ces informations-là sont vraies? Parce que, tu sais, quand même, ils pourraient trouver des fausses preuves, etc. C'est rendu que tout est sur l'Internet maintenant.
Mm-hmm.
Donc, je me suis dit, est-ce que c'est vrai qu'est-ce qu'ils racontent? Et après, je me suis dit, mais est-ce que, tu sais, ils vont revenir? En ce moment-là, la police n'était pas arrivée.
Okay.
Je me demandais, est-ce qu'ils vont revenir à l'école? T'sais, est-ce qu'ils vont demander à des élèves genre de, je sais pas, les interpeller personnellement? T'sais, je savais vraiment pas ce qui allait arriver par la suite.
Mais est-ce que tu avais peur?
Ben un petit peu au début, mais c'est sûr que quand la police, la direction est arrivée, etc., ça s'est radouci. Mais au début, j'avais peur que, si je sais pas, ils nous empêchent de rentrer dans l'école. Regarde, je sais pas, là, mais je savais pas qu'ils fassent quelque chose.
Bien, je comprends, c'est intimidant. Tu me dis, la direction, les profs sont intervenus très vite. Ils ont fait quoi? Ils se sont interposés?
En fait, quand moi, je suis arrivée, la direction était déjà dehors.
OK.
Mais ils ont préféré appeler la police parce que, tu sais, quand même...
On sait pas.
C'est ça, là.
OK.
Puis, mais la police a pris beaucoup de temps à arriver pour une école qui est au milieu de Montréal. Donc, dans le Mile End, on est vraiment au milieu, genre, ben, plateau Montréal.
Mm-hmm.
Et la police a pris quand même longtemps à arriver. Donc, ça fait que dans tout ce moment-là, il parlait dans son porte-voix et personne, tu sais, était en attente de la police. Donc, personne faisait un petit peu rien, tu sais. Mm.
Ce que je comprends aussi, Marion, puis on va se laisser là-dessus, c'est qu'il y a eu des lives Facebook, des gens, des élèves ont été filmés par ces manifestants-là?
Ils ont mis en live Facebook, je suis pas certaine sur Instagram, mais sur Facebook, Twitter peut-être. Et la vidéo dure quand même 45 minutes et je sais qu'il y a des élèves qui ont été montrés. C'était secondaire 1 et 2, donc on est pas mal tous des mineurs. Là. En fait, on est tous des mineurs.
Puis on sait que c'est illégal là, de fumer des mineurs sans le consentement des parents. Marion, merci beaucoup de m'avoir raconté ce qui s'est passé hier à ton école secondaire Robert Gravel dans le Mile End. À Montréal, on va te souhaiter un reste de semaine plus paisible. et tu sais, on entend le témoignage de Marion, tu sais, à 12 ans, elle rentre au secondaire, elle est toute contente d'aller se faire vacciner depuis 2-3 jours, d'avoir une certaine immunité. Ce monde-là débarque, ce monde-là crie des slogans anti-vaccins. Puis je trouve ça intéressant ce qu'elle disait, Marion, sur le fait qu'il y a des trucs qui avaient l'air crédibles, tu sais, qu'il y avait quand même un petit rattroupement d'élèves qui écoutaient ça, puis qui auraient pu penser, bon, que finalement, ça, c'était des infos valides, des infos valables. La police faisait quoi? Débarquer après un certain moment. Là, ce que je comprends, c'est que ça a pris un certain temps. Est-ce qu'on va devoir faire des décrets pour que les manifestations soient interdites autour des écoles? Est-ce que ça ouvrirait aussi la porte à interdire toutes sortes de manifestations autour de nos établissements scolaires? Il ne faudrait pas que ça arrive, mais s'il faut en venir là, je pense qu'on n'aura pas le choix là, parce que c'est intimidant de voir des adultes comme ça débarquer avec des porte-voix et crier n'importe quoi.
Cube Radio. Les rencontres de l'air.
Nicole Gibeault et Geneviève Peterson.
La rencontre Gibeault-Peterson.
Hey Nicole, j'ai bien envie de te demander ce que tu ferais avec ça, toi, les manifestants autour des écoles. J'aime ton rire.
Parce qu'on l'a souvent commenté ensemble. Mm-hmm. Je trouve ça épouvantablement égoïste, manque de jugement total. Puis oui, je suis exactement au même point que toi. C'est pas des cibles qu'on... C'est des cibles vulnérables. Puis ils ont le droit à rentrer à une rentrée normale. Ils ont le droit à une rentrée zen. Ils ont le droit. Ça fait 18 mois qu'ils sont souvent en sur Zoom, etc. Puis ils sont contents de se revoir. Puis là, on a, regarde, mais j'ai vraiment
par rapport
hâte
à...
qu'on agisse. Moi, j'ai vraiment hâte qu'on agisse.
Oui, mais Marion nous disait, qui était à l'école Robert Gravel hier, il y a des manifestants qui se sont pointés, qui ont filmé des enfants, des mineurs. T'sais, on n'a pas le droit de faire ça, là.
Ben, filmer des enfants, des mineurs comme tels, probablement que non, mais je veux dire, je pense au niveau distribution puis tout ça, mais c'est beaucoup plus dans d'autres domaines, là. Mais c'est bien évident que les parents, en tout cas, regarde, peut-être qu'il y a des parents qui vont être tellement insultés qu'ils vont essayer de trouver des auteurs et les poursuivre en dommages pour avoir diffusé...
Sur Facebook.
Sur Facebook, pour avoir diffusé des photos de leur enfant mineur. Moi, en tout cas, je suis certaine qu'il y en a qui vont regarder ces approches-là. Il y a des parents qui sont exaspérés, qui sont choqués. J'ose espérer qu'on va être capable de mettre... Sans les empêcher de contester, on revient toujours au même principe que oui, ils ont le droit de manifester, aller manifester ailleurs. S'il vous plaît, mettez des barricades, s'il faut, mettez des barrières, laissez les gens. Mais c'est effrayant, être obligé de laisser passer les gens, les jeunes à l'intérieur de clôtures de métal pour s'en aller à l'école. Ça n'a pas de bon sens, mais s'il faut qu'on en arrive là,
oui.
Ou légiférer de façon peut-être par décret un peu plus
serré.
Poignant,
mais après ça, on a peur que ça ouvre la porte pour justement l'interdiction des manifestations. Ça pourrait créer...
Mais on veut pas qu'on interdise les manifestations. C'est
exact.
Pas ça qu'on veut. Je pense que c'est pas ça qu'on veut. Puis s'ils ont tout le temps ça dans la bouche de penser qu'on veut leur interdire, ben ils ont pas bonne route.
Ben le message est clair, je pense, c'est aller manifester là où ça compte. Projet de loi pour la création d'un tribunal spécialisé qui a été déposé par le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, qui était d'ailleurs en point de presse ce matin pour annoncer tout ça avec la ministre déléguée à la condition féminine, Isabelle Charest.
Oui, puis je cherchais un petit peu partout. Finalement, j'ai trouvé la dernière partie. Puisque j'ai trouvé, ben oui, on est au courant que ça fait des mois et des mois et des mois depuis le dépôt du rapport de la commission transpartisane là, oui. Sur les violences sexuelles, les violences conjugales. On était au courant que ça s'en venait, là, mais ça parlait. On jasait, on disait ça s'en vient. Tout le monde mettait beaucoup de pression et sur ce projet de loi. Et oui, le tribunal spécialisé, bon, on a maintenant l'assurance qui va être formée et on va l'imposer à la Cour du... Ben, l'imposer. On va faire une chambre spéciale là, qu'on va appeler tribunal spécialisé. Je ne sais pas trop comment là, les tenants et aboutissants, là, ça c'est du détail, là, mais qui aura pour but, évidemment, de donner un accès à ce genre de dossier un peu plus intime. Je m'explique, oui. Je m'exprime. Quand t'es mêlé avec des dossiers de drogue, trafiquants de drogue, gang de rue, etc., dans le même corridor pour l'avoir vécu, là, dans tout le bien, je parle en dehors de la pandémie, évidemment, là, on n'est plus en pandémie, c'est plus pareil dans les palais de justice. Mais quand tous ces gens-là sont mêlés, c'est déjà tellement intimidant de se présenter puis aller témoigner, etc. C'est déjà très, très, très difficile. Alors ça, c'est, d'après moi, un point excellent qui entoure ce tribunal-là. Deuxièmement, l'accompagnement. L'accompagnement du début, on en a parlé ensemble régulièrement, les CAVAC, les centres d'accompagnement d'aide des victimes, s'en plaignaient qu'on ait des avocats qui les accompagnent gratuitement là, pour leur donner, pas nécessairement comment, c'est pas une question là, de des aiguiller en droit gratuitement, si, mais juste les conforter sur certains éléments. Le DPCP a son travail à faire, puis le DPCP, je le répète, ce n'est pas l'avocat de la victime. C'est la personne qui dépose des accusations. Et oui, c'est sûr que c'est la personne qui va parler, qui va interroger la victime en premier, qui va avoir le premier contact. Mais, tu sais, souvent, il y a des questions que même les procureurs de la Couronne se sentent un petit peu mal à l'aise parce que c'est dans un contexte d'impartialité. Parce que s'ils se rendent compte, et je l'ai vu, Geneviève, devant moi, que vraiment, c'est farfelu. Mais j'ai vu des procureurs se lever et dire, bon, là, Madame la juge, arrêtez, là. Je vous déclare que je ne vais pas plus loin là-dedans. Pour toutes sortes de raisons, que ce soit en matière familiale, que violence conjugale, agression sexuelle, peu importe. Je l'ai vu dans des dossiers, puis il faut que les procureurs de la Couronne soient capables de le faire en toute indépendance. Et ils, à la majorité, ils le font parce qu'ils ont un statut particulier. Ensuite, ce qui est très important, puis là, je prédis, là, ça va sauter, parce que ça sautait déjà, c'est que là, le ministre Jolin Barrette, qui n'est pas dans des relations à l'eau de rose.
Ça veut dire quoi, ça, Nicole?
Attendez. Okay. Des relations, peut-être pas à l'eau de rose avec la magistrature. On se souvient. C'est pour ça que je voulais finir.
Oui, oui.
Alors, c'est pas nécessairement là, convivial à ce point. Très poli, j'en conviens. Mais d'ailleurs, c'est leur statut. Là. Chacun de leur côté doivent d'être très, très, très ouverts et polis. Mais ça n'empêche pas que, bon, le ministre, c'est le législatif. La Cour et, bon, les gens qui, les juges en autorité, etc., c'est le judiciaire. Maintenant, on n'aime pas du tout à la magistrature se voir imposer certaines choses. Et ici, ce projet de loi, on a entendu parler, quand je dis que c'est pas à l'eau de rose, dans la question de la langue pour la nomination des juges, bon, il y avait eu un retour là, assez fulgurant là, de pour la nomination des juges unilingue, ben pas unilingue, surtout pas unilingue, mais qui était en mesure de parler anglais aussi. Là. Donc là, on va imposer des formations obligatoires. On dit au Conseil de la magistrature, vous allez devoir préparer un programme de formation obligatoire pour tout candidat qui va se présenter à la magistrature au Québec et qui va vouloir être nommé juge. Alors, ces candidats-là vont s'engager. Maintenant, vont s'engager. Moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils ne s'engagent pas, là, mais en tout cas. Mais doivent s'engager, on verra comment ça va être appliqué, à suivre cette formation-là. Et là, on ajoute, parce qu'on voulait pas laisser passer autre chose, on peut siéger jusqu'à 70 ans, là. Alors, tous les juges suppléants, juges de paix magistrats, juges de paix suppléants, qui ont arrêté, exemple, 60, 65, et qui veulent siéger jusqu'à 70. Il y en a plusieurs juges suppléants, et d'ailleurs, on en a besoin à travers le Québec pour aider à désengorger. Ben, ces gens-là devront, eux aussi, avant d'être assignés dans une salle de cour, avoir fait cette formation particulière. Formation particulière, moi, OK, sur le coup, là, je suis convaincue qu'on va, ça va, ouf, il va y avoir un ouf.
Oui?
Ah oui.
Mais voyons, ça va monter aux barricades pour pas suivre cette formation-là.
Je sais pas si ça va monter aux barricades, mais il y avait une résistance de la magistrature. Et je le dis du début, là, quand on veut dire à la magistrature qui ou quoi faire, on soulève, et avec raison souvent, le fait qu'on est nettement indépendant. Mais ici, le législateur fait une loi. Ça, c'est dans son domaine, là. Fait une loi disant telle chose. Et l'autre partie, ben, c'est parce que c'est comme n'importe qui, là. Une loi qui est en vigueur, on doit s'y conformer. Donc, peut-être que là, il va y avoir un enjeu, mais c'est sûr, je l'ai vu, je l'ai entendu. On ne veut pas se faire imposer nécessairement certaines choses. Moi, j'ose espérer qu'on va se rallier, qu'on va comprendre qu'il y a peut-être un changement dans la mentalité qui est nécessaire. Puis c'est pas pour dire que ces juges-là sont pas capables de juger, c'est pas ça qu'on dit. Mais ça a changé la vie depuis MeToo, depuis les contextes de on chiale parce que les gens vont dénoncer des réseaux sociaux parce qu'ils ont pas confiance dans le système judiciaire parce que. Puis après ça, on dit, bon, on va donner plein d'outils aux intervenants aussi des formations, à la police aussi des formations, à tous ceux qui touchent de loin ou de près dans un délicat dossier comme ça, pas à l'encontre de la défense, pas contre les droits de l'accusé, on change pas du tout le doute raisonnable, on change pas du tout la présomption d'innocence, mais on appuie sur le fait que la victime, là, qui est vérifier souvent est-ce qu'elle peut être bien accompagnée. Mmh. Ça va être au centre. Moi, je vois pas.
Bien accompagnée pour qu'elle se sente impliquée. Parce que moi, c'est ça qu'elles me disent, les victimes, tout le temps. T'sais, elles comprennent bien là, que le procureur est au service de l'État et que c'est pas l'avocat de la victime. Elles comprennent bien, mais elles se sentent mises de côté. Puis oui, ils se sentent mises de côté parce qu'il y a des victimes aussi qui sont des hommes.
Moi, je pense que des prises de position comme ça, puis de la législation, ben, si on était au bas de l'échelle, on a peut-être monté un petit cran avec un projet de loi comme ça, même s'il y a de la réticence. Je comprends, j'ai toujours compris, là, mais ce que je trouve un peu... il y avait quand même un comité de plusieurs personnes qui se sont penchées puis qui ont fait des recommandations. Ça fait partie des recommandations. Et une ex-juge en chef de la Cour du Québec siégeait là-dessus. Là. Alors, s'il y avait eu des réticences à ce point-là, je pense pas qu'on aurait... Tu sais, on a vu l'envers de la médaille aussi. Là. Il faut qu'on ait vu l'envers de la médaille.
Oui.
Il y a certainement eu des positions contradictoires, mais ils en sont arrivés à un consensus de suggérer ce genre de recommandations-là. À moins que ça sorte des mues là, et que la recommandation sur la formation des juges n'existait pas, mais à mon humble avis, c'était une partie des recommandations, la formation de tous les acteurs judiciaires pour améliorer, et j'en reviens à ceci, la confiance du public.
Ben, c'est ça, oui, puis
la
confiance des victimes envers le système, c'est la pierre angulaire de toute cette histoire-là.
Pas pour les faire gagner, parce qu'il y a bien des avocats en défense qui disent « Oh bon, c'est bien, c'est sûr là, qu'elles gardent, là, ils vont tellement bien les envelopper, puis j'ai malheureusement utilisé le terme, là, que c'est sûr qu'ils vont gagner. » Non, c'est pas ça.
Là. C'est une défense pleine et entière tout le temps. Notre système repose là-dessus et c'est parfait, mais c'est de prendre soin des gens à travers ce processus-là qui si on se renseigne un peu, là, quand même, a l'air assez laborieux et violent, entre guillemets, pour certaines victimes. On va continuer, évidemment, Nicole, analyser ce nouveau tribunal. Je pense que c'est pas la dernière fois qu'on en parle.
Non.
À demain.
Ce sera pas la dernière fois. À demain, au revoir.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Geneviève Peterson.
Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson.
On essaie de rejoindre Mme Ivanka Jolicoeur-Brutus pour parler de la situation en Haïti. Pendant qu'on essaie de faire ça, petit mot sur la quatrième vague. Là, au début de l'émission, j'oubliais de vous faire le décompte des cas qui sont quand même assez élevés aujourd'hui. 785 nouveaux cas, un décès. Évidemment, la montée des cas directement liée au retour des enfants dans les écoles, à la situation aussi dans les entreprises. Là, beaucoup de travailleurs qui sont de retour en présentiel. J'aurai l'occasion de reparler un peu plus tard avec Elsie et Marc-André de la situation des tests rapides qui créent bien des maux de tête à nos directions d'école. Puis bon, hier, on soulignait là, qu'il y avait une couple de tests rapides qui étaient pour passer date. Au mois d'octobre, c'est pas tellement productif là, quand on sait que ça fait des mois qu'on demande au gouvernement mais qu'est-ce qui se passe avec tous ces tests rapides qui sont tablettés. On y reviendra un peu plus tard. Pour l'instant, Vincent Dessereau est avec nous pour nous parler du dernier Vox Pop de Guy Nantel qui fait beaucoup jaser, comme tous les Vox Pop de Guy Nantel, mais celle-là, une petite coche de plus.
Oui, je pense que c'est toujours, ça marche toujours bien, là, ce qui fait que vous, quoi que vous en pensiez, là, c'est, bon, c'est pour des anti-vaccins et je pense que pour certains, c'est un plaisir de regarder ça parce qu'ils ont été souvent confrontés à des gens qui avaient des pseudo-experts en vaccination, en santé publique, en masque et tout ça. Puis là, tu te rends compte que rapidement, dans bien des cas, les connaissances vont pas très loin. Là. Évidemment, Guy Nantel le dit, c'est jamais caché. Il fait plusieurs minutes d'entrevue entrevue puis il prend que tes mauvaises réponses. Il y a sûrement des gens là-dedans qui savaient qui était le nom du premier ministre du Québec.
Il y a du montage.
Il y a du montage, mais il a quand même bien fait parce que dans le montage, il le montre, qu'il dit clairement aux gens. Là. Il dit, vous êtes au courant que je vais vous montrer vos pires réponses qu'on va rire de vous. Là. Puis les gens, oui, ils disent oui.
Le pouvoir infini du câble, j'allais dire, mais à la question qui est Bernard de Rome, il y a quand même quelqu'un qui a répondu, un dictateur italien.
Oui, ben en fait, c'est qu'il demandait, il donnait des noms de dictateurs. Oui. Il demandait, ils étaient les dictateurs de quel pays, étant donné que plusieurs là-dedans se disent experts en dictature. Et au nom Bernard de Rome, mais certains disent, ça doit être l'Italie ou l'Europe. D'ailleurs, certains...
Parce que Rome, tu sais.
Ben, c'est exactement
voulais,
de Rome.
Je voulais souligner.
Et aussi Lénine, où certains disent, John Lénine, oui, mais ça, c'est les États-Unis, il me semble. Donc, bon, une petite confusion ici. Mais moi, l'élément qui m'a le plus fasciné dans la vidéo de Guy Nantel, c'est pas la période, la partie question. C'est vraiment un bout qui vient au début du segment, parce qu'en interviewant les gens, ils disent « Ah, mais nous, on est pacifique, on accueille tout le monde. » Et là, il voulait montrer que ce n'était pas nécessairement le cas, parce qu'il a été, comme plusieurs journalistes, plusieurs personnes dans ce genre de démonstration-là d'anti-vaccins ou d'anti-mesures, ils se font intimider. Il y a des gens de certains groupes qui se déguisent, je parle vraiment qu'ils se déguisent en motards là, ou se déguisent en faux Hells Angels, ben, là, entre autres aussi, les farfadas.
Oui, il y avait aussi beaucoup de, ils ont l'air à des groupes paramilitaires, là, beaucoup c'est d'imagerie, mais des culottes d'armée, des ceintures de balles.
T'as les farfadets, on va les appeler les farfadets, eux se mettent se déguisent en pour faire peur là, avec des manteaux de cuir. Puis,
mais
là,
ça marche, c'est intimidant ben, pour vrai.
Pour bien des gens, c'est intimidant, mais là-dessus, Guy Nantel m'a vraiment fasciné parce que il s'est vraiment pas laissé intimider le moindrement par une gang, je veux dire, de matamors, là, de faux braves déguisés en Hells Angels pour essayer de lui demander de s'en aller de là.
Oui, ils ont des pattes ou quoi?
Oui, oui, ils se mettent des... Écoute, ils se déguisent carrément en groupe...
criminalisé.
En groupe de motards là, pour essayer de faire peur au monde. Ça doit marcher dans beaucoup de cas, mais j'ai adoré la colonne de Guy Nantel qui, quand il s'est présenté en politique, effectivement, des fois, il a l'air un peu arrogant, sûr de lui, mais là, ça a été payant parce qu'il les a, selon moi, ridiculisés. Il n'a pas bougé de là. D'ailleurs, c'était à côté, de l'autre bord du studio. Là. C'était dans le parc Émilie Gamelin. Et leur demande, en gros, d'un, c'est qui eux, puis de deux, de quel droit ils se pensent, les patrons de la plage. Je vais vous faire entendre l'échange. J'ai de la musique, il a mis de la musique rock par-dessus. Mais vous allez quand même comprendre un peu l'échange.
Quelque chose.
C'est bon.
C'est parce que, un, t'es qui? C'est quoi ton autorité? Deux, en quel honneur, ici, ça vous appartiendrait? C'est ça mes questions. Puis si tu sais pas les réponses, tu vas me laisser tranquille.
Là, il y a du monde qui sont en train de s'occuper, qui veulent faire des niaiseries, qui veulent s'en prendre à nous autres ici.
Ces gens-là qui veulent s'en prendre à moi, qui viennent, là, vous parlez de liberté. Je vois des pancartes liberté. Je vois ici que c'est une marche pacifiste. Voilà. Si vous venez faire de l'intimidation à deux pouces de ma face, je pense pas que vous avez des vestes, vous êtes pâchés. Si vous achetez dans mes culottes. Puis laissez-moi un peu de place en plus.
Wow, on dirait une altercation à la sortie des bars.
Oui, un peu. C'est pas parce que vous avez des patchs que je vais chier dans mes culottes. J'ai trouvé très, très bonne ligne.
Oui, puis pour les auditeurs qui avaient un petit peu de misère à entendre, ce qu'on comprend, c'est que la personne à qui s'adresse Guy Nantel lui disait, l'autre personne lui dit, ben là, il y a des gens qui veulent s'approcher de vous pour, finalement, faire sacrer le camp.
Oui, c'est là ce qu'ils essaient, à un moment donné, voyant que ça marche pas trop, leur discours, c'est, mais on est là pour te protéger, là, t'avertir, parce qu'il y a des gens là-bas qui veulent s'en prendre à vous.
Les citoyenne, toi, Charles.
Ouais. Une des répliques qu'aurait pu donner Guy Nantel, c'est pourquoi vous n'allez pas leur faire peur à eux autres, là, si vous êtes les gardiens de la place, là, pourquoi c'est moi qu'il faudrait qu'ils m'en aillent? Et il leur dit au début, parce qu'il arrive, il dit allez-vous-en d'ici, il dit il pourrait arriver quelque chose. Donc des menaces à peine voilées.
Le droit est vraiment pas là.
Oui, alors si nos grands défenseurs de la liberté, là, anti-dictature, sont pas capables de tolérer la présence d'un humoriste, là, un humoriste qui fait des vox pop à des gens qui acceptent tout à fait de jouer le jeu. Il n'y a pas personne là-dedans qui est forcé de répondre aux questions. Mm-hmm. On le voit d'ailleurs dans la vidéo. Les gens s'amusent. Tu peux partir de là avec le sourire. Peut-être qu'ils ont moins le sourire quand ils revoient le montage après. Là, mais sur le coup, ils sont bien contents de participer au Vox Pop. Donc, les grands défenseurs de la liberté incapables de supporter la présence d'un humoriste. J'espère que ça va donner le ton et inspirer beaucoup les gens à dire faut pas là, se faire intimider par cette gang-là. C'est des gens déguisés, c'est des gens qui ont pas les bonnes informations. C'est correct, on peut les... ils manifestent, là, ils manifestent près des écoles, ils manifestent près des hôpitaux, mais faut pas, surtout pas se sentir intimidé.
Ben, moi, je me sens intimidée. En tant que petite madame là, qui s'en va dans la rue, eux autres sont 6 pieds 2 avec leur patch, je veux bien croire, ils sont beaucoup écrits après.
Sauf que tu vois, ils ont été rapidement...
ils ont été rapidement cassés.
Écouillés, là, par Guidance. Juste une
personne, ils ont égossé.
Juste une personne qui dit bon, t'es qui, toi? T'es le roi du parc, là, va-t'en. Alors, ça peut peut-être en inspirer certains. C'est resté dans une relative politesse. Mais alors, à voir. Je vous ai pas mis les extraits des questions. Vous pourrez vous amuser à aller l'écouter carrément. Guy Nantel l'a publié sur sa page Facebook.
Rapidement, Vincent, grand projet de la STM. Écoute, un projet pilote.
Non, mais hier, ça m'a fait quand même sourire parce que la STM, le RTL, l'EXO, l'ARMTM, donc la grande région de Montréal, tout ce qui est transport en commun, s'est uni pour dire maintenant, on pourrait faire une chose intéressante. Geneviève, acheter des billets pour le métro ou recharger sa carte Opus avec notre téléphone.
Comme au 21e siècle.
Ouais, au lieu d'attendre le premier du mois comme des vrais colons devant la petite machine où il y en a 15 devant toi puis d'attendre une heure, on pourrait juste l'ajouter sur notre téléphone. Ça, c'est une super idée. Ce qui m'a fait sourire, c'est que là, on lance un projet pilote. Puis là, tu peux participer au projet pilote. Il faut que tu participes. J'essaie de voir pour participer. Il faut que tu fasses un sondage de qualification qui prend une dizaine de minutes. Après ça, ils vont t'approuver. Après ça, tu vas faire des tests. Après ça, tu as deux sondages de suite pour évaluer ton expérience. Écoutez, là,
je pense qu'on peut le faire.
Non, mais admettons, je peux faire le projet pilote. Tu prends le téléphone, ça marche-tu? Oui. Ben, le projet pilote, il est fini, là. C'est pas plus compliqué que ça. Es-tu capable d'acheter un billet par téléphone? Es-tu capable de rechercher ta carte opus?
Peut-être une subvention, Vincent, pour
le c'est ça, mais là, il faut faire des sondages. Dans l'équipe, là, sérieusement, quand vous n'êtes pas capable de tester, vous, l'application, puis dire...
Ça doit être une équipe de WoW.
Ça marche, là.
Il veut demander
ça marche-tu?
Son avis.
Si ça marche, ben, votre test est fini, puis intégrez ça au plus vite, parce qu'à chaque début de mois, c'est le chaos pour renouveler ses cartes opus dans bien des cas. Donc, c'est jusqu'au 31 décembre,
le scénario chez nous, habituellement, là, c'est que le premier au matin, là, à 7h30, quand le dépanneur n'est pas encore ouvert, ma fille veut s'en aller à l'école puis elle fait « Maman, parce que j'ai oublié. »
Ben, c'est ça, là, on est en 2021. Est-ce que tu as besoin d'un projet pilote jusqu'au 31 décembre pour tester ça? Je suis pas sûr. Alors, vous pourrez y participer si vous voulez d'ici là.
Les sceptiques seront confondus.
Merci.
Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson.
Cube Radio.
Le procureur en charge du dossier de l'assassinat de Jovenel Moïse, limogé par le premier ministre haïtien après avoir demandé que le chef d'État soit interdit de sortir du pays pendant les procédures. Écoute, les circonvolutions là, de ce qui se passe en Haïti sont sans limite et j'ai l'impression, moi, en tant que personne non spécialiste, Madame Blanche, que je comprends rien à tout ça. Donc, j'avais bien envie qu'on essaie de démêler cette situation-là avec Ivanka Jolicoeur-Brutus, qui est ex-mairesse de Pétionville. C'est à Port-au-Prince. Bonjour, Madame Jolicoeur-Brutus.
Bonjour Geneviève.
Bon, écoutez,
j'ai bien aimé votre introduction.
Mais merci, c'est très gentil. Juste faire peut-être un petit résumé, là, parce que c'est dur à suivre, même pour les gens qui sont boulimiques dans l'information. 7 juillet, assassinat de Jovenel Moïse pendant la nuit, président de la République d'Haïti, bien entendu. Il était dans sa demeure. On parle d'un commando de 28 personnes avec des mercenaires colombiens, quelques locaux. Dans les heures qui suivent, échange de coups de feu avec les autorités haïtiennes entre ces mercenaires-là et bien sûr, justement, ces autorités-là. Ensuite, de ces 28 assaillants-là, on en a capturé 3, ont été tués 3, 4, c'est pas clair, 5 sont en fuite, 2 se sont rendus. Et là, premier ministre par intérim, Claude Joseph, impose un état de siège pendant 15 jours, donne des pouvoirs supplémentaires aux autorités. Et là, pendant les 2-3 semaines qui suivent, on a une trentaine de suspects qui sont toujours sous arrêt. Plusieurs autres sont recherchés. On pointe du doigt plein de gens. Et là, le 20 juillet dernier, Ariel Henry devient officiellement premier ministre du pays. Et là, cette semaine, le juge choisi pour instruire le dossier de l'assassinat a débuté les auditions. Quelques personnes ont été arrêtées. Invite Ariel Henry à venir témoigner le 14 septembre. Suivez-vous encore. Exige aussi Ariel Henry soit interdit de quitter le territoire haïtien en raison de la gravité des faits exposés, bien entendu. Et là, quelques heures plus tard, et là, c'est là que le coup de théâtre, un autre arrive. Le premier ministre annonce limoger le procureur pour faute administrative grave. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Madame Jolicoeur-Brutus?
Ah, ben oui, hier, vous avez oublié la journée de hier.
Bon, ben qu'est-ce qui s'est passé hier?
Alors, ajoutez à ce que... Bon, mon Dieu, je ris, mais c'est parce que c'est rendu, il faut que ce soit visible parce que ça tient de Netflix. Je pense que la série est encore sortie, mais ça va en être une bonne. Écoutez, beaucoup de confusion. Geneviève, beaucoup de confusion. Et hier après-midi, encore un peu plus, n'est-ce pas, un coup de théâtre, il y a le président du tiers Sénat de la République, M. Joseph Lambert, qui s'est réuni au palais législatif, pas au palais législatif, pardon, à la Chambre basse, avec les 10 sénateurs qui font partie de ce tiers qui existe encore, pour installer et de faire l'investiture de M. Joseph Lambert comme président. Alors ça, c'était hier après-midi. Et puis, ceci a dû être abruptement interrompu parce que des tirs ont été entendus dans la zone, dans les environnements. Mm-hmm. Donc, pris de panique, ça n'a pas pu être poursuivi. Cependant, on apprend aujourd'hui qu'ils essaient, encore une fois, donc le président du tiers Sénat, Joseph Lambert, est en sa résidence privée en ce moment, avec les 10 autres sénateurs pour essayer de faire l'installation d'un président qui serait M. Joseph Lambert. Parallèlement à ça, bien évidemment, on a un cabinet ministériel qui existe et qui a quand même une responsabilité à prendre en ce qui a trait à certaines décisions ou même par rapport au premier ministre Ariel Henry. Et ce cabinet semble vouloir supporter le premier ministre, mais il faut que je vous dise que ce matin, il ne supporte pas le premier ministre. Donc là, je ne sais pas quel autre coup a été fait, mais là, cet après-midi, aux dernières nouvelles, là, il y a un support pour le premier ministre Henry de la part du cabinet, mais tout en demandant au premier ministre de garder le juge d'instruction qui, justement, a mis un interdit de départ et qui a fait appel au premier ministre Ariel Henry. Et pourquoi avoir fait appel au premier ministre Ariel Henry au niveau légal? Alors, ça vient de l'enquête qui est en train d'être menée sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Oui. Et apparemment, des appels qui ont été démontrés, apportés à la justice, que Ariel Henry était en communication le jour du 7 juillet avec un dénommé Badiou, qui est un présumé coupable dans l'affaire de l'assassinat du président Jovenel. Alors, appelé pour question, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont pas contents, entre autres le premier ministre Ariel Henry, n'est-ce pas, voulant maintenant révoquer la révocation de ce commissaire.
Oui, bien, ça fait bien, hein, parce que c'est quel hasard, on a envie de dire ça. Ouais,
n'est-ce pas? Dire que là, il y aurait eu des conditions. Alors là, c'est vraiment, là, parce que là, c'est frais là, ce qui se passe. Alors, c'est pas coulé dans le béton, mais disons qu'il y a beaucoup de négociations, beaucoup de discussions, beaucoup de parlable qui est en train de se faire. Et il ne faut pas aussi ignorer l'acteur principal, qui est quand même la communauté internationale. Il ne faut pas l'oublier ni le nier. D'accord? Alors, là, on ne sait pas encore. C'est pas encore clair parce que les choses sont chaudes actuellement parlant. Là. Les choses se brassent, mais la communauté internationale aura son mot à dire sous peu sur des pourparlers qui sont en train de se faire, que ce soit dans le clan du premier ministre, ainsi que du côté de M. Joseph Lambert, président de ce tiers Sénat, avec ses députés, ses sénateurs-là. Alors, demain, puis après-demain, ben ça va continuer, puis ça me fera plaisir de continuer à vous parler, quoi.
Puis merci.
Beaucoup de confusion, je vais vous dire.
Ben merci de le faire, de nous parler, puis d'essayer de nous expliquer ça du mieux que vous pouvez, là, Ivanka Jolicoeur-Brutus. J'ai envie de vous demander, parce que depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, il y a beaucoup de théories. C'est difficile de se faire une tête, de départager qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Il y a beaucoup d'affaires aussi qui se disent sur les médias sociaux, là, faut le dire. on a une population, oui, des journalistes qui sont hyper impliqués, qui présentent des points de vue. Vous, comment vous le voyez? Est-ce que vous êtes capable de dire à ce stade-ci qui a tort, qui a raison?
Absolument pas. Absolument. Et écoutez, j'ai fait, entre guillemets, de la politique.
Oui.
Parce que je me suis toujours considérée plus comme une présidente communale, OK? Je connais pas tous les bas-fonds de la politique, encore moins celle en Haïti, je vais être honnête avec vous.
Oui.
Par contre, l'expérience que j'ai fait à la mairie, fort avec tous ces pourparlers, tous ces deals, parce que bon, on le sait, c'est ça, là, on est d'accord, c'est ça la politique. Beaucoup d'éléments qui font partie de ce gros casse-tête. Mais moi, je vais vous dire qu'il fut un temps où je prenais plaisir à faire des analyses ou à réfléchir ou justement de voir, OK, où était le pour, où était le contre, et de me servir aussi de la raison, de la logique. Mais malheureusement, peine à dire, et ça me fait gros au cœur parce que j'aime tellement mon pays, je pourrais être ailleurs, mais j'ai fait le choix d'y rester encore aujourd'hui. Il y en a qui me demandent pourquoi, mais je reste. Cependant, je dois vous avouer que c'est la première fois en 20 ans depuis que je suis revenue en Haïti que je suis attristée, je suis découragée, je suis confuse, je ne vois plus de lumière.
Ben c'est ça, oui.
Je la vois pas. Honnêtement, là, il fut un temps où on la voyait, le corridor était noir, mais il était large. Mais là, il se rétrécit et la lumière est encore plus fine. Et quand on pense que ça va mal, bien, on se rend compte que ça peut encore aller plus mal. Et c'est dans cette circonstance qu'on est. Et quand je vous souris, quand je ris, c'est très sarcastique, je vous le dis honnêtement, parce que excusez l'expression, mais à un moment donné, ça va péter. Ça va péter et puis les gens seront sauvés d'une certaine façon. Parce que là, il y a vraiment trop de confusion. Nous n'avons plus d'état de droit. Bon, déjà, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait plus. Mais là, on n'a plus d'état de droit. On n'a plus de gouvernement vraiment qui fonctionne. La police, vous connaissez l'exemple. Voilà, le premier ministre veut révoquer un commissaire de gouvernement parce qu'il veut le questionner dans une affaire où, en effet, on a démontré, prouvé qu'il y avait des appels faits.
Oui.
Mais là, le premier ministre veut. Alors, c'est pas... Je prends pas la part d'une personne ou d'une autre. Je me sers de ma logique légale dans n'importe quel pays. Je veux dire, tu vas répondre aux questions. Ça veut pas dire que tu es accusé, mais tu vas répondre aux questions. Mais là, tu peux pas aller demander la révocation d'un commissaire de gouvernement. Ça se fait pas. Puis même si le commissaire du gouvernement avait été, influencé par un autre parti pour mettre des bâtons dans les roues, dans les roues, permettez, du premier ministre, je m'excuse, mais c'est ça le travail d'un commissaire de gouvernement, là. T'sais? Fait qu'il aurait fallu qu'il trouve une autre chose pour mettre les bâtons dans les roues du premier ministre parce que lui, il fait sa job. Puis même s'il voudrait la faire mal, il aurait fallu qu'il fasse autre chose. Parce que ce qu'il demande, selon les preuves à l'appui, ben moi, là, dans ma petite tête, c'est correct. T'sais? Fait que là, tu le révoques, tu le renvoies. Là, c'est comme, OK, là, tu mets encore plus de choses sur le dos. Oui. Alors, ça, c'est la confusion. Tu veux être avec lui. Puis là, mais là, en même temps, tu as un cabinet ministériel qui te supporte. Puis, en même temps, tu as un tiers de Sénat qui existe encore, entre guillemets, légalement. Parce que, oui, il est là légalement. En tout cas, je pourrais tellement faire d'analyse.
Mais est-ce que je comprends, là...
Pour vous démontrer à quel point, là, c'est...
Mais je comprends que c'est un joyeux... Oui, oui, c'est un joyeux... Ben c'est ça, c'est la confusion. Puis nous, quand on regarde ça, on est confus parce qu'on se demande qu'est-ce qu'on peut faire. Tu sais, pas moi en tant qu'individu, mais comme pays, le Canada, même vous parliez tantôt de la communauté internationale, puis on va se laisser là-dessus. Est-ce que c'est le seul espoir d'Haïti, finalement, que la communauté internationale s'en mêle?
Écoutez, je suis haïtienne de naissance,
oui.
De naissance d'une mère canadienne, donc j'ai les deux nationalités, OK? Je vis en Haïti, j'aime Haïti. La communauté internationale sait ce qui se passe, OK? Elle est là sur le terrain, elle voit ce qui se passe. Quand elle sera prête à faire quelque chose, elle le fera. Si elle ne l'a pas encore fait, c'est parce qu'elle sent que pour ses avoirs, ses atouts, ses
on n'a pas d'intérêt.
Ses besoins. Merci beaucoup.
Ben oui, mais tout le monde le sait que c'est ça. Alors, si c'était un pays qui nous rapportait, si c'était un géant du pétrole, ça ferait longtemps qu'on serait débarqué avec nos gros guns en sauveur blanc. C'est sûr.
Voilà. Puis peut-être que, d'une certaine façon, moi, je vais vous dire aussi, peut-être qu'il est temps qu'il nous laisse nous chamailler, puis qu'on reste dans notre. Dans ça, là, dans ce qu'on est. Puis c'est ce que je crains, parce que si c'est ce qui se fait, ben, ça va péter. Je veux même pas penser au Rwanda, mais quelque chose comme ça peut-être peut arriver. OK? C'est peut-être ça qui sera notre délivrance. Mais à un moment donné, il faudrait pas qu'on fasse comme en 1804, tu sais, qu'on pète, qu'on fasse la guerre, puis qu'on s'entretue, puis qu'après ça, ben que ce soit la force étrangère qui revienne nous prendre. C'est juste ça que je souhaite.
Oui, ben il va.
Les deux bords, là, c'est.
Ivanka, Jolicoeur, Brutus, merci pour votre franchise. On vous souhaite bonne chance. On souhaite bonne chance à Haïti. Évidemment, on se sent bien impuissant de là où on est. Ivanka Jolicoeur-Brutus, ex-mairesse de Pétionville. On se parlait de ce qui se passait en entourant l'assassinat de Jovenel Moïse, qui était président de la République d'Haïti. Un assassinat qui a eu lieu le 7 juillet dernier.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande d'IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
Geneviève Peterson.
On est avec Isabelle Letourneau qui a signé une lettre sur le trouble du syndrome de l'alcoolisme fœtal. C'est dans la section « Faites la différence » du Journal de Montréal. Est-ce que c'est un enjeu de santé trop peu abordé? Elle est là, Mme Letourneau. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bon, vous travaillez aussi pour l'Association pour la santé publique du Québec. J'aimais bien le début de votre lettre parce que vous disiez que vous compreniez là que c'était peut-être un peu passé sous le radar que cette journée du 9 septembre, qui est la journée internationale de sensibilisation aux troubles du spectre de l'alcoolisme fœtal. Il y avait aussi les malheureuses célébrations là, entourant le 11 septembre 2001. Donc, je pense que évidemment là, il y avait beaucoup de sujets dans les médias, mais c'est vrai qu'on en parle peu de ce syndrome-là. Pourquoi on en parle si peu, selon vous?
Mon Dieu, je pense que malheureusement, c'est encore une question qui est taboue au sein de notre société de parler de consommation d'alcool durant la grossesse. Certaines personnes vont manquer de connaissances tout simplement pour dans le fond bien comprendre. D'autres personnes vont être mal à l'aise de faire allusion à ça parce que dans le fond certaines personnes vont plutôt dire ben c'est la femme, c'est la future maman qui prend ses décisions. Tout ça, je comprends ça, mais il faut tellement en parler, il faut tellement élargir les connaissances, il faut tellement enlever les silos et que ça ne soit plus qu'une question prénatale, mais que ça devienne un enjeu puis une question de société, que tout le monde puisse en parler sereinement, clairement, pour justement soutenir les futures mamans dans leurs choix, dans leurs décisions et bien comprendre tous les risques que peut causer la consommation d'alcool durant la grossesse.
Oui, parce qu'on a l'impression qu'en 2021, ça touche très peu de nouveau-nés, mais vous avez quand même des chiffres qui sont révélateurs, là.
Oui, tout à fait. Écoutez, il n'y a pas de données officielles du Québec. On connaît très peu de choses, malheureusement, au Québec sur cette question-là. Oui. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que en 2018, l'OMS a fait une étude avec une grande chercheure canadienne à Toronto pour essayer d'estimer la prévalence du TSAV, du trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale chez les jeunes d'école publique, des jeunes enfants de 7 à 9 ans. Et son estimation, suite à cette étude-là de l'OMS, c'est un taux de prévalence de 2 à 3%, ce qui est énorme. Il faut pas se le cacher. Je peux pas transposer ces chiffres-là comme ça par rapport à ce qui se fait au Québec, mais ce que je peux vous souligner aussi, c'est que la consommation d'alcool chez les femmes enceintes au Québec, dans les dernières études gouvernementales qui ont été faites en 2005-2006, ben c'était les femmes québécoises qui consommaient le plus d'alcool durant leur grossesse partout au Canada. Donc, un taux dans une étude fédérale, un pourcentage d'environ 21,4%, et la moyenne canadienne était de 10%, et dans une étude québécoise, dans les mêmes années, autour de 31%.
Mais c'est quand même.
Donc, c'est certain qu'on a des drapeaux rouges qu'on peut lever, et encore plus avec la pandémie.
Ben, je pense que on est dans une culture de consommation d'alcool aussi, puis il y a vraiment des différences à ce niveau-là, peut-être par rapport au monde anglo-saxon. Là, je me rappelle à l'époque quand j'habitais en France, que j'étais enceinte moi-même, j'étais assez surprise de voir des femmes enceintes qui célébraient un shower de bébé sur une terrasse à Aix-en-Provence en buvant une bouteille de rosée. Pour moi, c'était, ça faisait pas de sens. Puis après ça, tu te dis, ben là, est-ce qu'on est en train de paniquer? Est-ce que prendre un verre de vin une fois ou deux pendant sa grossesse, ça peut avoir des conséquences sur l'enfant à naître? Jusqu'à quel moment c'est OK? Est-ce que c'est tolérance zéro? On est mêlé. On sait pas. Il y a des médecins qui sont super laxes avec ça. Il y en a d'autres qui sont plus sévères.
Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que le message, c'est vraiment pendant la grossesse, on boit sans alcool. Vous planifiez avoir une grossesse, vous êtes enceinte, évitez la consommation d'alcool parce que c'est une roulette russe, en fait, on le sait pas. Il faut comprendre que la science à laquelle on se réfère, tu sais, les études scientifiques nous disent qu'il n'y a pas de seuil sécuritaire de consommation d'alcool. Ça peut dépendre du bagage génétique. De la maman, de l'avancée de la grossesse, du bagage génétique de l'enfant, de l'état de fatigue, de stress, l'état nutritionnel de la maman, tout ça peut influencer sur le fait qu'un enfant ou pas va développer un TSAF étant donné une consommation d'alcool durant la grossesse. Alors, il faut éviter cette consommation-là et vraiment boire autre chose. Là,
oui, ça se peut. Hein?
Des choses qui vont faire du bien pour sa santé et la santé, surtout de son enfant à naître.
C'est quoi les répercussions, les impacts d'un enfant qui naît avec le TSAF?
Oh mon Dieu, il y a plus de 400 manifestations possibles qui ont été répertoriées par rapport à un TSAF. Il faut comprendre que c'est un spectre. Hein? Alors donc, c'est pas une seule manifestation. Nous, on a développé une campagne pendant la grossesse, on boit sans alcool, qu'on vous invite à aller voir sur notre chaîne YouTube de la SPQ, où on présente trois défis dans la vie de Charlie qui est atteint du TSAF au quotidien. On a vraiment voulu essayer d'exposer des impacts qui étaient plus majeurs, plus connus. Alors, des troubles de développement du cerveau, des troubles relationnels, des troubles du langage, difficulté à se concevoir dans l'espace. J'ai parlé à un jeune adulte atteint du TSAF dans la dernière année et quand il a vu Charlie qui se perd sur le chemin de l'école, c'était lui. Il se reconnaissait tellement et les personnes atteintes du TSAF à qui j'ai parlé m'ont tellement dit, mon Dieu, merci, c'est la première fois que je me reconnais à l'écran, qu'on voit ma condition et qu'on me comprend et que je me reconnais. Ils étaient très, très, très reconnaissants, ces gens-là à qui j'ai parlé.
Terminez votre lettre en disant que comme société, on devrait avoir une réflexion quant à notre consommation d'alcool. Vous trouvez qu'on boit trop?
Oui. Je pense que oui. Regardez autour de vous, que ce soit les émissions des téléséries, des téléromans, des émissions de où on reçoit dans le fond des invités, les animateurs qui vont avoir des verres de vin, les téléséries, la même chose. Regardez autour de vous les abribus, des annonces d'alcool. Vous allez comprendre à quel point ça peut être difficile à ce moment-là. Ça va rendre la vie difficile aux futures mamans qui ont des difficultés pour réduire leur consommation d'alcool ou toutes les autres personnes qui ont ces défis-là de dépendance à l'alcool, donc d'être toujours exposées à des annonces d'alcool sur les réseaux sociaux, au sein de notre environnement. Je vous donne par exemple, en Ontario, tous les lieux de vente d'alcool, que ce soit les LCBO, les SAQ ontariennes ou les autres commerces ou restaurants, il y a une loi qui oblige dans le fond tous ces lieux-là avoir des messages de prévention à la non-consommation d'alcool. Mais,
à un moment donné, ça fait pas un peu prohibition. Je pense qu'il y a un juste milieu. Là. Je pense qu'il faut faire de la sensibilisation comme vous le faites aujourd'hui. Mm-hmm. Il faut que les professionnels de la santé embarquent aussi. Il faut qu'on arrête de banaliser la consommation d'alcool. Puis peut-être qu'on se pose des questions pour lesquelles on boit aussi souvent aussi. Isabelle Letourneau, merci. Chargée de projet de SAF à l'Association pour la santé publique du Québec. Je vous invite à aller lire la lettre de Mme Letourneau dans la section « Faites la différence » du Journal de Montréal.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchand d'IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Geneviève Peterson.
Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
Cube Radio.
Les rencontres de l'heure.
Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
La rencontre, Lefebvre, Leclerc.
Et on retrouve Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. Salut à vous deux.
Allô, allô.
Hey là, Elsie, je m'excuse, OK, je t'exclus un peu de la conversation. Quoique, tu vas peut-être savoir ce dont on parle. Marc-André, je vais faire appel à ton côté chauvin parce que tous les deux, on vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Oui.
Là, je lisais ce matin par rapport à la pénurie de main-d'œuvre que la sacro-sainte fromagerie Boivin, Marc-André, était touchée. Faudra peut-être même qu'on sacrifie certains produits. Pas nos petits crémeux. Pas nos petits crémeux.
Non, non, ben là, c'est ça. Là, c'est comme on dit, c'est le bout de la...
bout de la marde.
Le bout de la M, là.
Oui.
Ouais, exact. On est rendu là de sacrifier nos produits régionaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le fromage, en plus, là, vraiment, la pénurie, là, vraiment, rendu à des... À des extrémités, il ne faut pas se rendre. Là. Toi, c'est le bout du bout.
Toi, tu viens du lac, si je ne m'abuse. Hein?
Exact.
Okay, ben
ouais,
c'est ça,
moi, je viens de Robertval.
Ben c'est ça. Donc, toi, tu dois être team fromagerie Perron là, ou fromagerie Saint-Laurent.
Exactement.
Ah, c'est
exactement,
ça.
Exactement. Mais tous les fromages sont bons. C'est ça qui est le fun. Oh! C'est que oui, j'ai mes préférés. Oui. Mais c'est sûr que je connais bien. Je suis déjà allé souvent voir la famille Boivin. Puis c'est des excellents produits. Puis à chaque fois que je vais à la baie, là, j'arrête les voir. Fait que... Non, c'est triste d'en être rendu là. Ça prouve, ça montre hein, comment la pénurie de la main-d'œuvre a des impacts là, partout en région puis partout au Québec.
Vive le fromage qui fait squick-squick et ne touchez pas à notre cheese whiz québécois. OK, Elsie, je m'excuse tellement pour cet aparté régional.
Une belle parenthèse.
Oui,
mais à Montréal aussi, on connaît ça, là, le fromage Boivin.
Je sais.
Il y a des jumelles de Star Academy là, qui nous en avaient parlé, donc c'est devenu populaire partout.
Oui, puis le petit crémeux, là, pour pas faire de pub, on peut le trouver dans toutes presque les bonnes grandes surfaces. C'est ce que j'ai envie de dire. D'ailleurs, c'est le secret de mon macaroni au fromage, mais on en reparlera. Rentrée parlementaire survoltée à Québec. François Legault, disons ça comme ça, n'est pas allé avec le dos de la cuillère, a traité les gens, donnant entre autres le Parti libéral de succursale du Parti libéral du Canada, là, donc évidemment le Parti libéral du Québec. Même traiter Gabriel Nadeau-Dubois de woke, ça a l'air c'est une insulte. c'est quand même, ça me laisse dubitatif. On a l'extrait d'une entrevue que M. Dubois a accordée à mon collègue Antoine Robitaille à propos de cette insulte, en guillemets, on l'écoute.
Êtes-vous un woke, Gabriel Nadeau-Dubois? C'est l'étiquette qu'a voulu vous apposer M. Legault. Êtes-vous un woke?
C'est une bonne question. Notamment parce que je
sais même pas ce que c'est exactement. Moi,
c'est ce que j'allais dire. Je ne sais pas c'est quoi. C'est quoi être woke? Bon, être plus woke que Maurice Duplessis, c'est sûr que c'est pas difficile. mais moi, je sais pas c'est quoi être woke. Faudrait demander à François Legault. C'est lui qui balance des étiquettes.
Elsie?
Ben oui, donc tout un échange ce matin à l'Assemblée nationale. Hier aussi d'ailleurs, là, donc l'Assemblée nationale qui a ouvert ses travaux hier. Gabriel Nadeau-Dubois, il faut dire que Québec solidaire a été assez rude avec le premier ministre parce que depuis hier, ben, il traite M. Legault là, de presque copie de
Duplessis.
De Duplessis. Oui. Donc c'est quand même pas rien. Là. Voyons, Catherine Dorion, puis les libéraux aussi hier ont dit, bon, le curé, le nouveau curé du Québec des années 30, des années 50. Donc, je pense qu'ils ont piqué au vif le premier ministre. Et donc, lui a répondu, Duplessis avait bien des défauts, mais il défendait le Québec. Il n'était pas un woke comme le député de Gouin. Boum! Et là, évidemment, Gabriel Nadeau-Dubois a répondu à savoir que, bon, est-ce que le premier ministre voulait là, qu'on débatte comme dans les égouts? Bref, ça a dégénéré un peu. Ça donne le ton de la campagne, pas de la campagne, mais de la campagne à venir dans un an, mais de la session qui commence. Oui. Bref, les échanges risquent d'être assez houleux.
Oui, puis en ce qui a trait au Parti libéral, est-ce que c'est vrai que c'est une succursale de la version Canada de l'affaire, Marc-André?
Non, ben je pense pas. Ils ont tout le temps, je veux dire, il y a des gens qui travaillent dans les deux organisations, mais Monsieur Legault est en forme, là. Oui. On est rendu juste au jour 2, puis on est rendu là.
Il a pris ses vitamines.
Oui, c'est ça, il a pris ses vitamines, des pierres à feu.
Mais sa kryptonite, c'est ça, long. Superman.
Oui, puis là, je me demande, on va être rendu en fin de session à la mi-décembre, là, parce que à matin, j'ai regardé mon calendrier, j'ai regardé dehors, il neigeait pas, heureusement, puis là, on est juste à la mi-septembre, là, puis on est au jour 2 de la session. Il faut voir que tout le monde se calme un petit peu. Là. Je comprends que tout le monde est énervé avec la campagne électorale au fédéral, là, mais tu sais, je veux dire, c'est pas la leur. Là. Fait qu'on peut juste comme se calmer.
Oui.
Il y a quand même des enjeux. Il y a des enjeux importants. Là. Oui, on peut parler de Maurice Duplessis, puis woke, pas woke, puis mais tu sais, je veux dire, en santé, ça va pas bien. Parce qu'on parlait de Sonia Saint-Jean, je veux dire, à l'hôpital de Roberval, il y a 7-8 infirmières qui ont démissionné la même journée. Les tests dans les écoles, on va en parler tantôt. Après ça, la pénurie de main-d'œuvre, la santé, le délestage, il y a d'autres problèmes là, que savoir là de se mêler. Fait qu'heureusement, la campagne fédérale se termine lundi. Tout le monde va se calmer aussi à Québec. Mais là, c'est un ton qui des accusations qui ont plus ou moins leur place de part et d'autre.
Ben oui, excuse-moi, elle parlait beaucoup d'ingérence du fédéral dans les affaires provinciales. Elle devrait peut-être arrêter de s'ingérer dans la politique fédérale dans cette campagne-là. Parce que, bon, évidemment, à un moment donné, on en a un peu ras la super et ça détourne l'attention des vrais enjeux, comme tu l'as si bien souligné. Elsie, tu voulais dire quelque chose?
Mais j'allais juste ajouter rapidement que l'objectif, c'est aussi de définir ses adversaires. Donc, la prochaine année va être très importante. Et franchement, François Legault a choisi son camp, donc veut essayer de diminuer un peu la portée du Parti libéral, puis dire effectivement, tu sais, puis c'est quand même pas rien que le leader parlementaire libéral ait agi.
Ah, ça, c'est une erreur.
Exactement. Là, donc, a participé à la préparation du débat des chefs de Justin Trudeau. C'est quand même c'est assez particulier. C'est rarement vu parce qu'habituellement, on prend des élus qui sont, bon, soit retraités ou bon. Donc là, ça laisse une prise là, très forte à François Legault. Puis du côté de Québec solidaire, bon, ben tu sais, ils veulent se faire passer pour l'opposition officielle, mais donc de les catégoriser comme woke, ben ça les amène dans une frange de population ou de voteurs là, qui est très restreinte. Donc, si on va peut-être le réentendre là, pendant la session parlementaire. C'est peut-être stratégique de la part du premier ministre.
Bon, dernier droit de la campagne fédérale, Marc-André.
Oui, dernier droit de la campagne fédérale. Le sondage léger sur la question, la fameuse question du débat en anglais, est rebondi dans la campagne fédérale ce matin. Bien sûr, on voulait savoir si M. Trudeau et M. O'Toole demandaient des excuses hein, du groupe des médias. Là. Les deux ont dit que oui, là, la question n'était pas adéquate, était injustifiée, était inappropriée. On peut prendre tous les qualificatifs. Donc, c'est sûr que là, ça revient. C'est sûr que pour M. Trudeau, c'est pas une bonne nouvelle qu'on voit un peu l'état de sonde et tout ça, les sondages. Parce que là, ce qui est le fun présentement, c'est qu'au-delà des sondages qu'on voit, c'est que là, on peut commencer à en parler avec les différentes équipes puis en commençant à décortiquer certains sondages sur qui a déjà voté. Et c'est ça qui est intéressant. Et moi, quand je parle un peu tout le monde, puis également, je regardais le site là, de Brian Breguet, Too Close to Call, puis il est allé voir un peu les sondages sur qui avait déjà voté dans chacune des provinces. Puis on voit qu'au Québec, là, le vote bleu en général, autant le vote bloquiste que conservateur a bien sorti, et en Ontario également, le vote conservateur a bien sorti comparé au vote libéral. Donc ça montre aussi la motivation des troupes. Puis on a vu aussi hier, les chiffres d'Élections Canada, qu'il y a 1 million de plus de Canadiens qui ont voté par anticipation en fin de semaine qu'en 2019. Donc, deux hypothèses. Soit que vraiment les gens veulent aller voter, puis quand tu dis normalement haut taux de participation, ça veut dire le changement, ou les gens se sont dit, ben le 20 septembre, il va y avoir des longues files, fait que je vais aller voter en fin de semaine, j'ai plus de temps sur le week-end. Parce qu'on se rappelle qu'à une certaine époque, pour voter par anticipation, il fallait quasiment avoir un billet du médecin. Là,
c'est vrai.
Aujourd'hui, tout le monde peut y aller. Fait qu'il y a peut-être un mélange des deux. Il y a 1 million de personnes qui ont demandé un bulletin de vote par la poste. Ça, c'est, on peut plus le faire présentement. Fait qu'on essaye de voir toute l'air là-dedans. Il y a 7 sondages présentement qui donnent les deux principaux partis à égalité, soit 32-32, 31-31, 33-33. Fait que là, toutes les parties sont toutes revenues à la même place pour dire la même chose. Le dernier jour, je sais qu'ils pouvaient dire plus 3, plus 4, mais là, tout le monde dit la même chose. Donc, on voit vraiment que c'est vraiment serré. Puis c'est pas pour ça qu'on a vu M. Trudeau hier dans un rassemblement où la distanciation sociale n'avait pas lieu. Et ça, c'est un peu aberrant. Le premier ministre qui attaque tout le monde, c'est les vaccins tout ça, mais il est pas capable de faire respecter des règles dans ces rassemblements. Que Jean Chrétien est réapparu pour venir appuyer M. Trudeau en fin de campagne.
Elsie, je veux qu'on passe au sujet des tests rapides parce que, bon, c'est important. À moins que tu aies des choses à rajouter sur ce que Marc-André a dit.
Non, mais Marc-André a fait un bon résumé là, de la dernière journée, donc c'est très serré, puis ça va être intéressant, puis bon, de voir sortir M. Chrétien. Je vais rester poli, là, mais quand même, ça fait un peu désespéré.
Ben oui, effectivement. Là, le bordel dans les écoles montréalaises, là, les directions d'établissements scolaires qui s'affluent se garrocher avec la fameuse question des tests rapides, Elsie.
Ben oui, mais ça n'a aucun sens. Moi, j'ai écrit un texte en janvier 2021. Là, tu sais, ça fait longtemps. Les tests rapides sont dans les entrepôts depuis des mois. Puis là,
tu sais
bon,
qu'il y en a qui vont
passer
là. Ben c'est ça.
Ben c'est ça.
Oui.
C'est épouvantable. Sont utilisés partout dans le monde. On les utilise déjà, bon, au Québec, là, trois fois par semaine pour ceux qui ne sont pas vaccinés dans le secteur de la santé. Donc, moi, je ne comprends pas là, cet acharnement de ne pas avoir voulu les rendre disponibles. On aurait pu, dans les écoles, depuis bien longtemps, les utiliser. Ils ont fait des projets pilotes, de ci, de ça. Puis bon, là, on arrive, l'école est commencée, ça fait 3 semaines, 1 mois. Même au mois d'août, là, M. Legault, M. Arruda nous parlait de la rentrée scolaire comme ça dans 1 mois. Puis c'est comme, allô, la gang, c'est la semaine prochaine. Donc, il y a vraiment un manque de planification. Je ne veux pas mettre tout le blâme sur M. Roberge, parce que clairement, sur le ministre Roberge, clairement, il est prêt avec la santé publique, mais c'est comme si l'éducation s'est pris en deuxième lieu ou je ne sais quoi, mais il y a vraiment un problème à cet égard-là. Les tests rapides, c'est incompréhensible. Puis là, d'ailleurs, hier, Arruda qui nous apprend que là, il est en train de faire un sondage dans les écoles pour savoir quels profs sont vaccinés ou non.
Oui.
Comment ça que ça n'a pas été fait avant?
En tout cas, moi, ça fait 3 semaines que l'école est commencée. Il n'y a pas une semaine où je n'ai pas passé un test COVID, Marc-André.
Non, mais c'est ça l'affaire. Elle sait toucher les bons points. C'est comme si, cet été, là, le 15 juillet, tout le monde a fermé la lumière là, dans les bureaux gouvernement, là, en ce qu'on tout concerne de touche les écoles, là. OK, puis la rentrée, là, ça va être A1, puis tout va bien aller, puis il n'y aura pas de variant. Puis...
La normalité, on nous a vendu la normalité.
La normalité va être là, puis vraiment, moi, je veux bien la normalité, mais je veux dire, c'est à eux, à un moment donné, il faut que tu restes aux aguets. C'est-à-dire, les profs, on devrait le savoir. On le savait pour les étudiants, les pourcentages, on ne sait pas pour les profs comment ça.
C'est ça.
Les tests, ben là, les tests, Elsie, tu l'as dit, t'es écrit là-dessus, il y a belle lurette, mais les tests, on y a jamais cru, puis on y croit pas, puis là, on demande à M. Paré de venir les sauver.
Oui.
Mais puis là, ça fait trois semaines qu'on a commencé l'école. Je veux dire, il n'y a pas de plan. Et ça, c'est. Puis ça, l'opposition, tu sais, je chicanais tantôt de savoir t'es-tu woke, t'es-tu pas woke, là, puis t'es la succursale de qui, puis de quoi. Mais c'est là-dessus qu'il faut que tu tapes, là, parce que le gouvernement, là, il paraît mal à matin, là.
Oui,
il paraît très, très mal, ces écoles. Puis c'est de la priorité des parents. Moi, je suis un nouveau parent dans les écoles, là, depuis 3 semaines. Puis c'est ma priorité, là.
Bienvenue.
Mais tu sais.
Et là, la bonne chance. Combien de courriels tu reçois par jour, Marc-André? Entre 10 et 20, entre 20 à 30, toutes ces réponses?
On en reçoit pas mal. Je commence à gérer ça, là. Ça me prend toute ma journée pour gérer ça.
Mais oui, je voyais quelqu'un sur Twitter faire la blague au niveau du volume de courriels, de dire que c'était comme quand on était abonné à Columbia. Tu sais, les disques, là, qui n'arrêtaient pas de t'envoyer. C'est un peu. En tout cas, on va souhaiter bonne chance à nous, parents d'enfants scolarisés. Et moi, ce que je nous souhaite, c'est une formation pour pouvoir en effectuer nous-mêmes des tests rapides.
Ben oui,
ça nous sauverait beaucoup de maux de tête alors que le temps d'attente dans les centres de tests est quand même assez considérable. D'ailleurs, on va rouvrir le centre de prélèvement à l'auto au Stade olympique qu'on avait fermé parce que là, ça n'a plus de sens. Elsie, Marc-André, merci beaucoup. À demain.
Merci. À demain. Bye-bye.
Geneviève Peterson.
Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
Et on est avec Luc Laliberté. Salut, Luc.
Oui, bonjour, Geneviève.
Bon, on se parle de Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie, qui oui. garde son poste suite à un référendum.
Voilà, écoute, puis les résultats sont intéressants, puis à plus d'un titre. Donc, on rappelle aux auditeurs, hein, c'était ce qu'on appelle un recall, c'est une élection révocatoire. Donc, on a cette possibilité-là en Californie, où on aime bien que les citoyens se prononcent sur tout. On a cette possibilité, après avoir complété une pétition, ça prend bien sûr un plateau là, de noms à atteindre, mais on a cette possibilité de chasser du pouvoir le gouverneur de l'État dans l'exercice de ses fonctions. C'est arrivé une fois déjà, ça avait permis l'entrée en scène d'Arnold Schwarzenegger en 2003. Donc, cette fois-ci, ben, on tentait l'expérience contre Gavin Newsom, le gouverneur démocrate de la Floride, qui a beaucoup de pain sur la planche, beaucoup de travail avec la pandémie, l'immigration illégale, les villes sanctuaires, le réchauffement, les feux de forêt, donc l'économie de la Californie dans son ensemble. Alors, on a eu pendant un moment une course qu'on croyait serrée. Et quand on se prononce dans une procédure comme celle-là, dans le recall, il ouais. faut que le gouverneur, pour sauver son emploi, obtienne 50% et plus des votes. Et pendant un certain temps, la cote de popularité de M. Newsom a baissé. Et on a eu peur que celui qui pourrait lui succéder, qui était le premier à obtenir plus de suffrages dans la liste des prétendants au trône, on a eu peur que ce soit un partisan de Donald Trump qui soit là. M. Elder, là, c'est très ouvertement un républicain pro-Trump. Et le résultat d'hier, ben, c'était une très, très belle victoire pour Gavin Newsom parce qu'on a franchi la barre des 60%. Donc, on le mettait parfois 54, 55, 56% d'avis ou d'appui favorable. Cette fois-là, il en a obtenu autour de 64% parce qu'on dépouille toujours des bulletins. Mm-hmm. Donc, pour Newsom puis pour Joe Biden qui s'est rendu en Californie pour l'appuyer, pour les démocrates, c'est une très belle victoire. C'est une victoire nette et franche. En même temps, bon, on est aux États-Unis en 2021. Donc, à quoi qu'a-t-on dénoncé du côté républicain, entre autres du premier perdant dans la liste, M. Elder, dont je parlais? Ben, on a dénoncé un complot pour truquer encore une fois l'élection. Donc, c'est devenu en anglais le go-to, hein, ou le slogan qu'on invoque maintenant à chaque fois qu'on perd une élection. Si on a perdu, c'est qu'il y a des irrégularités, c'est qu'il y a eu fraude. Et comme ça a été le cas pour tout ce que Donald Trump a dit depuis le mois de novembre 2020, quand on a annoncé sa défaite, il n'y a pas de preuves qui soutiennent donc de telles affirmations. Alors, M. Newsom, on va voir, pour les démocrates, c'est important. Ça veut dire que si on sort et qu'on sort en masse pour aller voter, on a toujours le contrôle. Hein? On est toujours devant les républicains. Puis en Californie, on s'attendait un peu à ça, mais on voulait le valider. Mais du côté républicain, on va essayer encore de faire, comme on dit parfois, du millage ou du kilométrage sur des allégations de fraude.
Bon, on en a parlé un petit peu hier avec Vincent Dessureau, mais évidemment, oui. on n'a pas approfondi le sujet. Sur ce nouveau livre de Bob Woodward sur l'attaque au Capitole, et là, ça fait des vagues. Donald Trump, évidemment, ne doit pas être très, très content.
Mais écoute, ce qui et j'étais avec Vincent, nous partageons cette passion pour la politique puis l'histoire américaine. Parmi les extraits qui ont circulé, l'extrait le plus spectaculaire, le livre sort le 21 septembre, dans quelques jours. L'extrait le plus spectaculaire, c'est qu'on apprend que celui qui est en charge, qui préside ce qu'on appelle les Joint Chiefs of Staff, donc c'est les généraux de l'état-major, là, ce sont les plus hauts gradés des différents secteurs de l'armée américaine ou des forces militaires, le président qui s'appelle Mark Milley, aurait contourné l'autorité du président à plusieurs reprises entre décembre 2020 et janvier 2021, entre autres après l'assaut sur le Capitole en 2021. Et il craignait que Donald Trump, entre autres, ne déclenche une guerre ou n'utilise des missiles, entre autres, contre la Chine. Ça soulève un tas de questions. D'abord, on peut dire que ce qui est avancé par Woodward et Costa, qui est un autre journaliste du Washington Post, habituellement, c'est du solide. Ils ont des enregistrements, ils notent toutes les entrevues, ils gardent les passages les plus importants ou ceux qui pourraient avoir des retombées majeures. Donc, on ne parle pas de deux néophytes ou de deux journalistes là, très orientés. On parle de vétérans et de journalistes aguerris. Donc, s'ils disent que le général Milley a fait ça, il y a de bonnes chances aujourd'hui pour que ce soit vrai et qu'on prête foi à ces propos-là. Et Milley, ce qu'il fait, donc, comme général, c'est grave. Si on oublie qu'on parle de Donald Trump, Milley, dans un premier temps, fait le tour des militaires américains et des services de renseignement, la CIA, entre autres, et il dit, si le président américain prend une décision du genre on lance un missile ou on entre en guerre, on attaque quelqu'un, vous validez avec moi c'est le président qui est le commandant en chef de l'armée. Donc, M. Milley, déjà, là, va au-delà de ce que lui permet son très, très grand pouvoir. Je répète, là, il est au sommet de la hiérarchie, mais au-dessus de lui, il y a le président américain. Et Milley a fait quelque chose de très, très grave aussi, qui a de lourdes implications. Il a contacté le général Li en Chine, qui est son équivalent là, dans le système chinois, et il le rassurait à deux reprises en disant « Nous ne vous attaquerons pas. Oui. » Ou encore, « Si jamais on vous attaquait, moi, je vous avais retiré. » Il le fait de quel droit quand il fait ça? Donc, on a un beau dossier dans ce cas-ci où, au plan moral, on peut quelque part se réjouir du fait que M. Milley ait été là. Il a servi un peu de chien de garde parce que Milley dit, moi, j'ai l'impression, entre nous, on se dirait ça comme ça, que le président américain a pété les plombs et qu'il n'y a personne pour le retenir à part moi. De l'autre côté, est-ce qu'on peut se réjouir du fait qu'un militaire dans une démocratie soit allé au-delà du pouvoir politique qui est celui de M. Trump? On est devant un beau cas de conscience. Et il se pourrait, c'est pas impossible, que M. Milley soit blâmé pour s'être porté à la défense du système, mais en ne respectant pas la hiérarchie.
Sur les bases d'un livre?
Pardon?
Sur les bases d'un livre, parce que...
Non, voilà. Oui. Et j'ai écrit un petit article aujourd'hui en disant, il y a ce livre-là. Ensuite, il faudra voir quelle suite on va donner, parce que c'est littéralement, là, on fait pas de sensationnalisme, c'est une bombe qu'on vient d'apprendre.
Mais c'est une enquête.
C'est énorme. Oui, pardon, t'allais dire?
J'ai dit, c'est une enquête sérieuse, là. Je veux dire, Bob Woodward, c'est pas n'importe qui non plus, là.
Non, écoute, un général, là, c'est très clair, aux États-Unis, ça a été pensé comme ça, c'est le pouvoir politique qui a préséance sur le militaire, puis le militaire reste à sa place. On conseille le président, on peut le faire plus vigoureusement, on peut le faire avec insistance, mais une fois que le président a dit oui ou non, c'est lui qui décide. Donc, dans ce cas-ci, c'est très clair, si, bien sûr, tout ça est fondé, Milley a outrepassé son pouvoir. Alors, est-ce qu'on va vouloir aller plus loin? Il y a déjà des républicains qui ont dit, parce qu'il est toujours en tête des chefs d'état-major, M. Milley. Et il y a Marco Rubio, entre autres, le sénateur républicain, qui a dit on devrait le démettre de ses fonctions. Il faut qu'il perde sa job. De l'autre côté, c'était quoi les implications si vous n'avez pas réagi au fait que Donald Trump semblait instable à ce point-là?
C'est vrai. Qu'on pourrait supposer, Luc, que ce livre-là ait des impacts sur la possibilité ou pas que Donald Trump se présente aux prochaines élections américaines? Parce qu'on sait, là, il a dit qu'il y avait 99 % des chances qu'on le revoie à la lueur de cet ouvrage-là. T'sais, à quel point un livre comme ça peut lui faire mal à M. Trump?
C'est les chances que ça lui fasse mal, ça va émaner du Parti républicain lui-même. Déjà, on a, sans accorder d'entrevue ouvertement, là, sous le couvert de l'anonymat, il y a des républicains qui ont dit « Il a des troubles mentaux, M. Trump, puis si jamais il se représente en 2024, il faut s'assurer qu'il contrôle ça. Va-t-il être en mesure de le faire? » Donc, si on sent une certaine grogne ou des inquiétudes plus profondes chez les républicains, ben, ce que peut faire M. Trump, c'est la grande peur des républicains, c'est se présenter malgré tout, mais diviser le vote. Les républicains se collent à Trump parce qu'il leur permet encore de gagner, ou encore ça les empêche de perdre les pro-Trump. Et on sait qu'il y en a de nombreux partisans de Donald Trump aux États-Unis. Donc, moi, ceux que je surveille de plus près, les démocrates, on connaissait déjà la réaction. Mm. Puis pour la majorité de la population américaine, on l'a vu aux dernières élections, on a voté beaucoup plus dans certains cas pour tasser Trump que parce qu'on aimait bien Joe Biden. Ouais. On le trouvait, disons ça comme ça, moins épeurant que M. Trump. Donc, il faut avoir vraiment les yeux rivés sur les républicains. Comment vont-ils directement ou indirectement donner foi ou prêter foi à ce qu'a fait Milley ou à ce que rapportent encore Woodward et Costa.
Oui. Je me demandais, je sais que c'est peut-être pas ton genre, là, mais est-ce que tu as suivi le tapis rouge du Met Gala?
Oui. Écoute, il m'arrive aussi de faire dans les mondanités parce qu'on parle...
Alexandra Rodriguez-Cortez, je pense, ouais. Sa robe, là, Tax the Rich, comment t'as trouvé ça? J'étais curieuse d'entendre ton avis là-dessus.
Écoute, quand on est en politique, tu viens de référer au fait que Trump a dit « Je serai là à 99
%.» Ouais.
Lui surfe là-dessus parce que, bien sûr, ça maintient son nom dans l'actualité, puis tout se récupère au plan politique. Donc, il va pas, bien sûr, brûler toutes ses cartes lui-même, puis là-dessus, il est très habile, M. Trump. Alexandria Ocasio-Cortez sait que chaque fois qu'elle ouvre la bouche ou que chaque fois qu'elle se présente quelque part, les journaux vont récupérer ça, que ce soit les journaux plus progressistes ou à droite. Moi, je pense qu'elle passe à un endroit où on retrouve parmi les gens les plus privilégiés aux États-Unis.
30 000 piastres le couvert.
Pardon?
30 000 $ le couvert.
Voilà. Donc, elle est au bon endroit pour passer le bon message. Elle ne se présentera pas là, si ce n'est pour passer un message aux plus riches. Et dans ce cas-ci, elle se fait un peu la porte-parole de Bernie Sanders et de Joe Biden qui ont dit, entre autres, vous vous demandez comment on va financer les généreux projets qu'on veut mettre en place et qu'on a commencé à mettre en place. Ça passe par des impôts beaucoup plus importants sur les riches. Alors, on a eu un cheval de Troie, finalement, au Met Gala, et c'est Alexandria Ocasio-Cortez qui était ce cheval de Troie.
Bon, il y a des gens qui qui trouvent ça ingénieux. Il y a d'autres gens qui trouvent ça un peu comme moi, très paradoxal qu'elle ait porté ça dans ce type d'événement. Mais bon, on verra. Luc Laliberté, merci beaucoup. À bientôt.
Et à une bonne fin de journée. Bye.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchand d'IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net. Les autres.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1-877-827-2346.
Hello!
Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN.
14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Petersen. Salut Geneviève.
Salut Julie.
Alors, les cliniques de dépistage qui sont prises d'assaut à Montréal, mais dans d'autres régions également du Québec, toi, avec tes enfants, comment ça s'est passé dans les cliniques de dépistage depuis le début de la rentrée?
Bien, tu vois, j'ai mon coton ouaté parce que, justement, là, je fais des tests. À chaque semaine, là, j'ai mon kit de mère qui s'est dépêché un matin d'aller faire passer un test pour ma fille au secondaire parce que 3 semaines d'école... 3 fois, on est allé passer un test. Puis, tu as raison, tu nies, là, le temps d'attente explose, pas seulement dans la région de Montréal. Dans le coin de Québec, il y a des gens qui ont attendu 2 heures, même plus que 2 heures dans certains cas pour avoir droit à ce fameux dépistage. Imagine, là, quand tu dis à tes enfants, ben non, là, on va y aller, là, puis ça fait pas mal, c'est le gargarisme, puis on n'attendra pas longtemps, ça roule rondement. Mettons que tu te fais faire des gros yeux rendus sur les lieux, puis on se demande c'est dû à quoi ce temps d'attente-là. C'est simple, c'est retour à l'école, c'est le retour aussi en présentiel pour plusieurs travailleurs, et c'est dû aussi à la pénurie. Mais
c'est justement ça, ça faisait longtemps. Moi, tout le monde me dit qu'il y a du trafic en ce moment, là, couronnant la rive sud de Montréal, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent ensemble. Oui. Et là, c'est les bons vieux virus qui reviennent.
Oui, j'ai envie de dire qu'on s'en ennuyait pas de ce temps d'avant, du temps d'avant, le trafic, puis justement, les autres virus qui ont refait surface. Évidemment, là, moi, je t'ai dit, j'ai été 3 fois passer un test avec mes enfants, 3 semaines de différence. Je sais pas si j'ai été chanceuse parce que je suis allée dans un lieu là, où, supposément, le temps d'attente était très, très long. Moi, l'hiver passé, j'allais me faire tester à l'auto au Stade olympique. Là, à mon grand désarroi, au moment où j'ai fait les tests, c'était plus le cas. Il n'y avait plus de centre de testage par voiture au Stade olympique, donc je suis allée...
Ça devrait revenir.
Oui, c'est ça. Ça va revenir en début de semaine prochaine. Le gouvernement a entendu les appels à l'aide, je pense, des parents un peu découragés. Je suis allée à la clinique Chauveau. Ça s'est super bien passé. Le temps d'attente était quand même acceptable, même plus qu'acceptable. Je te dirais qu'en 25 minutes, tout était réglé. Mais, parce qu'il y a un mais... J'ai été stratégique dans mes heures. Hein? Puis je pense que c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'être stratégique. Là, moi, je travaille à des heures un peu bizarres. Moi, je suis allée là à l'heure du souper. Clairement, il n'y avait pas de monde. Je suis allée là. Je pense qu'il était 5h15. Non. Vraiment sur l'heure du souper. Là, quand les gens sont pognés dans le trafic, quand on revient de travailler. Moi, j'ai pris mes enfants tout de suite. Puis j'ai dit, hey, on s'en va là, 5h30. Donc, comme je te disais, 30 minutes. On était sortis d'affaires. Ma fille encore aussi ce matin, un temps d'attente dans une autre clinique montréalaise d'environ 30 minutes. Donc, ça semble quand même être revenu à la normale parce qu'on a vraiment pris ça, je pense, à cœur au niveau du gouvernement. Puis, tu sais, j'ai envie de dire, quand t'attends avec des enfants qui sont malades, là, tu sais, qui ont des symptômes. Tu ne vas pas là pour rien. Là. Tu vas là parce que tes enfants ou toi-même, tu as des symptômes, tu as le rhume, tu as quelque chose. Tu as le nez qui coule, tu as mal à la gorge, tu es fatigué. Attendre 2 heures debout dans une file, même si on remet
des
coupons.
C'est dissuasif pour aller se faire tester. Ouais.
Ben, c'est ça que je trouve dommage parce qu'on nous dit à chaque point de presse, on nous répète l'importance d'aller se faire tester puis parce qu'on ne veut pas que les écoles ferment, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des éclosions au milieu de travail. C'est sûr que ce n'est pas tentant pour un parent de se dire ben écoute, puis même pour soi-même, tu dis ah, j'ai probablement juste un petit rhume, je vais attendre 2-3 jours. jours, ben pendant ces 2-3 jours-là, si c'est la COVID, tu peux en contaminer du monde. Parce que je rappelle, là, pour le variant Delta, les deux symptômes, c'est nez bouché, mal de gorge. Ça ressemble pas mal à pas mal d'autres affaires. Donc, il faut y aller. Donc,
effectivement. Et ouais. Toi, depuis le début de la rentrée, t'es allé 3 fois déjà?
3 fois déjà. 3 semaines. 3 occasions de test avec tous les enfants, ils sont passés. Moi, pas encore. Mon système immunitaire a l'air de tenir le coup pour l'instant contre les petits virus du milieu scolaire. Là, mais c'est sûr que je ne vais pas y échapper, Julie. Donc, tu le disais, là, le retour du test à l'auto au stade olympique, ça devrait se faire en début de semaine prochaine. Je pense que ça va être soulageant pour bien des gens, des parents.
Bien.
Oui, tu mets les jeux électroniques en arrière, tu amènes des collations, puis au pire, s'il y a de l'attente, tu peux voir venir.
Merci beaucoup, Geneviève.
Bye bye.
Bonne chance.
Merci.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchand d'IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Vous écoutez
Geneviève Peterson.
Cube Radio. Léa Strisky.
Mais je veux que tu le saches que ça a un effet.
Mathieu Cyr.
Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça.
La rencontre.
Il y a de l'éducation à faire.
Faut avouer que je suis pour la démarche.
La rencontre Strisky-Cyr.
Léa, Mathieu, salut.
Salut!
Bon, on va se parler de la tradition qui, je pense, me tombe le plus sur les nerfs, les réunions de parents. Là, moi, il faut que je vous dise tout de suite que depuis que ça se fait en Zoom, je suis environ la mère la plus comblée, je pense, du Québec, parce que y a rien que j'aille plus qu'une réunion de parents. Puis aujourd'hui, on va se demander, est-ce que les pères s'impliquent moins au niveau de l'éducation de leurs enfants? Parce que toi, Mathieu, tu étais à une rencontre de parents hier.
Oui, j'étais là hier, puis... On était 3 gars pour 17 filles, tu sais, 3 hommes pour 17 femmes, puis la prof, évidemment, c'était une femme aussi. Fait que je me rends compte que l'éducation, c'est vraiment la tâche des femmes. Là, on a beau se dire qu'on a évolué en tant que société, mais ça a quand même l'air du mâle qui s'en va chasser l'orignal pendant que qui va ramener de la bouffe sur la table pendant que la maman s'occupe des enfants. Puis je me demande même, parce que moi, je suis vraiment honorable là-dedans. C'est pas parce que je suis meilleur que les autres que j'étais là. C'est tout simplement parce que je suis en garde partagée. Donc, je me devais d'être là.
C'était ton tour.
C'était à mon tour, exactement. Oui. Fait que je me demande si les deux autres pères qui étaient là étaient aussi en garde partagée. Tu sais, je me demande c'est quoi le niveau de volontariat du sexe masculin par rapport à l'implication de l'éducation des enfants. Puis, je trouve ça un peu dommage de voir que... D'après moi, c'est pas mal plus les femmes qui s'en occupent que les gars.
Léa, à qui incombe la tâche des réunions de parents dans ta maisonnée?
Ben, vu qu'on en a 3, on est obligé de les séparer parce qu'évidemment, les réunions tombent toujours en même temps. Donc, c'est ça qu'on essaye de faire. Ce que dit Mathieu, c'est vrai, c'est drôle. Il y a quelques années, ma belle-mère avait accompagné un de nos enfants à un cours parascolaire et elle avait trouvé qu'il y avait beaucoup de pères qui étaient là. Alors, elle trouvait ça bien qu'ils s'impliquent puis elle s'était fait dire « Ah ben, c'est parce que tout le monde est séparé, fait que c'est des gardes partagées. » Donc, c'est le tour du père. Donc, elle se l'était fait dire. Je pense que les réunions pour les parents profs sont souvent le soir, effectivement, et que peut-être que c'est les papas qui font plus les soupers. Il faudrait que ça soit notre prochain segment. Parce que je serais curieuse de savoir si le partage de tâches se fait naturellement dans ce sens-là. Mmh. Je sais que dans mon ménage, c'est comme ça. Mon mari chasseur d'orignal va nous chercher de la bouffe pour les lunchs. Et c'est lui qui s'occupe du département bouffe et je m'occupe du département entretien. Et ça s'est fait naturellement.
Bon, Je vais apporter peut-être un petit bémol à ce qu'on est en train de dire. C'est rare que je vais pencher du côté de l'égalité des tâches parce que j'ai souvent parlé de charge mentale, mais on dirait que depuis quelques années, à l'école de mes enfants, aux écoles que fréquentent mes enfants, il y en a plusieurs, les parents, ils vont vraiment à deux. Je vois vraiment des papas, des mamans. Là, je parle d'un moment où c'était en présentiel. Là. Uh-huh. Je voyais les pères, les mères, même les parents séparés. Moi, j'y allais avec mon ex. Évidemment, il faut que la bonne entente règne. Donc, ça, je trouvais vraiment qu'il y avait un changement là, par rapport à ma fille qui a 14 ans maintenant, là, par rapport au moment où elle a débuté son primaire. Puis je dois avouer que moi, les dernières réunions de parents, c'était pendant le face-à-face et pendant le débat des chefs. Donc, j'ai pelleté ça dans le cours à mon ex, puis j'ai fait « c'est toi qui t'en occupes! »
Mais aller dans une réunion de parents-professeurs à deux, je trouve que c'est une drôle d'activité de couple.
Non, mais tu peux cruiser si t'es séparé, là, mettons. Mon ex, j'ai dit, j'ai check s'il y a des belles petites mères, là, en première année.
C'est Claude qui se magasine une nouvelle mère pour ses enfants.
Ben non, une blonde. C'est moi la mère.
Mais oui, je sais, mais quelqu'un qui passerait du temps avec tes enfants, tu veux la choisir.
Exactement. Bon, je me dis, c'est ta réunion de parents, c'est une mère responsable. Fait que déjà, on part bien. Fait que la réunion de parents comme Meat Market, moi, c'est ce que j'ai vendu, Mathieu, à mon ex comme raison d'y aller.
Ça a-tu marché?
Ben non, il m'a dit que non. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de clic qui s'était produit. Fait que c'est ça. L'appel est lancé. Si vous voulez dater mon ex, appelez-moi. 866 Cube Radio. Il est bien fin.
ben non, mais pour vrai, moi ce que je trouve un peu poche là-dedans, tu sais, c'est que souvent les gars vont les pères, c'est souvent eux qui vont monter aux barricades à dire ça se fait plus l'éducation, il n'y a plus de notes, il n'y a plus ci, il n'y a plus de ça.
Oui, c'est vrai.
Ils vont avoir énormément d'opinions par rapport à la façon dont le système d'éducation fonctionne, mais ils vont avoir zéro implication dans ce système-là. Fait que c'est ça que je trouve
de ces pères, ces gérants d'estrade. Parlant de gérants d'estrade, on va y aller avec le Vox Pop de Guy Nantel. On peut être pour, on peut être contre, mais ça fait toujours réagir quand M. Nantel va de par le public, Léa.
Oui, et puis moi, j'ai été dans le passé en chicane avec Guy Nantel.
Ah oui?
De manière visible sur Twitter. Oui. J'ai même déjà fait un Vox Pop pour prouver que c'est Vox Pop qui était pas bon parce que j'étais allée devant l'UQAM pour refaire exactement le même chemin qu'il avait fait pour montrer que les Québécois étaient pas aussi nono que ce qu'ils prétendaient parce que ça m'énervait. Donc là, je suis bien prise à mon propre jeu parce que je peux voir le manque d'objectivité que j'ai parce qu'à partir du moment que les questions sont posées à des anti-vaccins, je suis contente qu'ils se fassent piéger. Donc, bien fait pour moi. Bien fait pour moi. Puis en plus, force est de reconnaître, je sais pas si c'est parce que Guy s'est lancé en politique que ça a pas marché, que ça y a mis peut-être une claque d'humilité, je sais pas, mais j'ai trouvé que c'était un homme nouveau dans ce Vox Pop-là. Donc, je le dis ici en onde c'est une bonne job. En plus, c'est courageux. Il affronte des gens que la plupart des gens n'oseraient pas aller parler à ces gens-là. Il se fait bousculer pendant le Vox Pop, il se fait intimider et il leur tient tête comme seul un humoriste peut le faire, je pense.
Mon Dieu, c'est la grande réconciliation.
Ben voilà.
On vit un moment, là.
Il le saura pas parce qu'il m'a bloqué sur Twitter. Alors, probablement qu'il ne sait plus que j'existe, mais en tout cas, moi, je le dis pour ma propre humilité.
Je m'engage à lui faire parvenir le segment de cette rencontre, Léa. Mathieu, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce Vox Pop de Guy Nantel? C'est vrai qu'il a confronté des gens intimidants là, qui sont habillés en genre de motard des pauvres.
Mais il confronte souvent Guy, tu sais, puis c'est ce que je trouve le fun. Et je trouve que, justement, avant, quand tu voyais que ça te trottait dans la tête d'aller en politique, il se mouillait moins, tu sais, par rapport à ce qui s'est passé là. Tu sais, puis on peut être pour ou contre la démarche, reste que ces gens-là existent. Tu sais, c'est pas des comédiens qui sont payés pour être épais.
Puis il leur dit au début, il leur dit qu'il va garder les bouts, il les prévient quand même.
Ouais, je trouve ça bien.
Quand tu vois quelqu'un qui est pas capable de dire dans quel siècle on vit, ou...
au 18e, right? C'est ça? Ouais, on est au 18e?
Non, il disait qu'on était au 210e. Oh, 210e siècle, il arrondissait à peu près, là, tu sais. Oui. Fait que pour lui, déjà, d'après moi, c'est peut-être que je ne sais pas, c'est peut-être un voyageur du futur qui est arrivé ici par lévitation, puis je ne suis pas au courant. Mais sinon, je trouve que oui, c'est facile d'exposer la médiocrité mentale, intellectuelle, disons, des gens à l'écran. Mais d'un autre côté, il fait souvent avec doigté, sans être trop chien avec les personnes, puis ça, il faut lui rendre parce que j'ai...
Oui.
J'aurais eu de la misère... Tu sais, des fois, j'aurais eu de la misère à garder mon sérieux.
Mais quand
quelqu'un m'arrive, puis... Tu me demandes c'est quoi le nom du premier ministre, il va te dire Joe Bocan. C'est dur de rester sérieux devant ça. Là.
En tout cas, moi, je me demande lequel de leurs deux parents allait aux réunions. si c'était leur mère ou leur père. Peut-être qu'il n'y avait personne. Léa, Mathieu, merci beaucoup. À demain.
Merci beaucoup. Bye. Salut, bye.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande d'IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
Vous écoutez
Geneviève Peterson.
Cube Radio.
Culture et société.
Anaïs Gertin-Lacroix est là. Salut Anaïs.
Bonjour Geneviève.
Hey, on voulait faire un retour sur le documentaire sur Anaïs Morissette. Hier, on a passé très, très vite. On était en fin d'émission parce qu'on n'a pas eu le temps de tout dire, là.
Non, puis le plus gros, c'est ça, hier, en une minute, fallait qu'on en parle un peu plus en détail, Geneviève, parce que ça fait vraiment réagir. Donc là, juste pour situer les gens, il y a un documentaire présentement, Jagged, en lien avec Jagged Little Pill de Alanis Morissette. Oui. Documentaire, on la voit dans le documentaire, là, Geneviève, elle prend la parole. Ce documentaire-là a été présenté notamment à Toronto, et pourtant, c'est une première mondiale, puis c'est vraiment, je te dirais pas ça un peu, ça a été là balayé sous le tapis. Et là, on comprend que Alanis Morissette, même si Geneviève, elle a pris la parole dans ce documentaire-là, elle le renie complètement. Elle dit des choses assez particulières, comme quoi qu'elle a eu plusieurs relations sexuelles alors qu'elle avait 15 ans, avec des hommes du métier beaucoup plus âgés qu'elle, et elle s'est rendue compte avec le temps qu'à 15 ans, il y en a pas, justement, de consentement, que c'était des viols, et elle dit clairement que c'était toutes des pédophiles. Plus loin dans le documentaire, elle raconte que lorsqu'elle a vraiment eu un méga gros succès, les messieurs de la boîte, là, vraiment lui posait lui demandait, excuse-moi l'expression, mais de lui faire une fellation, de la sucer littéralement dans les toilettes des bars.
On voit des
images d'elle sur scène
Elle avait
15 ans, exactement, puis elle dit que les hommes, déjà, la regardaient beaucoup lorsqu'elle avait 11, 12, 13 ans, mais on n'osait pas la toucher. Lorsqu'elle est arrivée à 15 ans, là, ça a changé. Elle raconte aussi que, bon, sur scène, c'était tous des gars avec elle, tous des musiciens, puis eux profitaient justement de Alanis Morissette pour se taper littéralement des femmes. Donc, c'est assez cru ce qu'elle raconte dans ce documentaire-là. Toutefois, Alanis Morissette, et ça, c'est pas la première fois qu'elle en parle, elle a fait plusieurs dépressions postpartum, et ce documentaire-là, elle dit avoir fait confiance à Alison Clayman, qui est la réalisatrice.
Mais elle se dit fière
la
du film,
journaliste.
D'ailleurs. Alison, la réalisatrice du film, se dit fière de ce qu'elle a fait.
Elle est vraiment fière de son côté. Puis, t'as l'autre bord, Alanis Morissette, qui dit avoir eu confiance en cette femme-là, lui avoir raconté des choses, mais qu'elle est vraiment pas contente du résultat. Tu comprends? Puis là, c'est ça, tu as une Alison qui est fière de ça, disant, mais moi, j'ai mis de l'avant, moi, je suis une femme d'Alanis Morissette, je raconte tout ce qui s'est passé dans les années 90-2000, puis tu as une Alanis à côté qui dit, oh, mais moi, j'étais en dépression postpartum, je t'ai fait confiance, j'ai dit des choses, j'imagine, on comprend qu'elle n'a pas vu le résultat final. La première version qu'elle a eue du film, c'est à ce moment-là qu'elle a carrément tiré la plug avec la cinéaste,
oui.
Mais c'est là qu'on se pose des questions. C'est quoi le... Tu sais, la cinéaste a fait sa job, c'est bien correct comme ça, mais en même temps, quand on parle, elle traite quand même de la vie d'une artiste qui est là, qui peut se défendre. Il me semble qu'il aurait fallu avoir le hockey final, non, d'Alanis Morissette. Je sais pas, c'est quand même une victime d'agression qui, là, se retrouve à raconter tout ça devant le monde entier sans nécessairement... Encore là, finalement, il n'y a pas tant de consentement.
Mais tu sais, c'est quoi, Anaïs, la démarche journalistique quand tu fais un documentaire, s'il fallait que tu commences à montrer... Tu sais, un documentaire, c'est un point de vue d'un réalisateur sur un sujet où si tu commences à montrer ça à tout le monde pour te faire valider tes affaires, t'as pas fini, là. Tu sais, c'est ça aussi.
Non, mais
là,
ça nous est tous arrivé, exemple, d'accorder une entrevue, puis on se fait dire, écoute, c'est vraiment quelque chose là-dedans que t'es pas à l'aise. Donc, j'ai l'impression que c'est ça, Alice Morissette, mais sans doute que finalement, avec le recul, là, sont tous des pédophiles, et le kit, peut-être qu'elle aurait enlevé quelques extraits.
Mais peut-être, elle a peur des poursuites, puis peut-être aussi qu'elle aime pas ça, parce que bon, les vedettes ont quand même image très contrôlée aussi, là, elle aime peut-être pas la façon dont elle est représentée, mais c'est clair que ça titille ma curiosité, que j'ai envie de le voir, ce documentaire-là. On parle d'une jeune vedette de Nickelodeon. Je sais même pas c'est quoi. Je sais même pas si je le dis comme il faut.
Aide-moi. Oui, tu le dis comme il faut.
Au secours.
Oui.
Nickelodeon, j'ai 112 ans.
On parle de... Non, mais même Achille en régie, tantôt, Geneviève me dit, là, je suis... Non, c'est que...
C'est cool, Achille, il y a comme 13 ans, fait que ça va. Je me sens correct.
Jojo Siwa, pour vous situer, c'est une jeune vedette pop, chanteuse, danseuse, actrice, qui a vraiment une grosse communauté sur les médias sociaux. Au Québec, on la connaît moins, mais aux États-Unis, c'est une méga, méga vedette, OK? Et là, celle-ci a commencé à faire des chansons sur YouTube, entre autres. Elle a signé ensuite des contrats disques et elle devait partir en 2018. Bon, ça a été retardé 2019. Et là, elle est en tournée Dream avec sa musique, ses chansons à elle. Je vais te faire entendre justement une de ses plus grandes chansons, son gros hit Boomerang. They can keep talking that talk, but I'ma keep walking my walk. And I won't hear a sound. Y'all are just trying to see. Bon, on est Geneviève dans la
pop. Wow, j'aime beaucoup ça. C'est vraiment très bon.
Directement dans la liste de lecture. Mais cette fille-là, ça marche réellement ce qu'elle fait, Geneviève. Tu sais, elle est invitée à Dance with the Stars. C'est la première fois que deux filles vont danser ensemble parce qu'elle est homosexuelle. Elle a 18 ans. Elle met ça de l'avant. Elle a un côté très revendicateur. Quand on la voit en entrevue, il n'y a pas, excuse-moi l'expression, il n'y a pas de bullshit. Tu comprends? Elle est vraiment, tu sais, la fille en soi est très cool, OK? Puis il faut avoir quand même des couilles, il faut avoir du guts parce qu'elle est sortie sur les médias sociaux. Là, il y a un film, toujours avec Nickelodeon, c'est-à-dire qui, présentement, est disponible. C'est le film The G-Team. The G pour Jojo. Donc, elle incarne son personnage à moitié, je te dirais, mais ça reste une Jojo un peu tirée par les cheveux pour le cinéma. Et il y a des chansons dans le film. Elle a écrit les chansons. C'est elle qui est derrière vraiment toute la... Elle produit d'ailleurs ce film-là. Et Nickelodeon lui a dit, en tournée, tu ne pourras chanter les chansons du film. Tu comprends? Donc, elle est sortie dans les médias sociaux disant ça, c'est inacceptable parce que je suis celle qui contrôle théoriquement ce film-là. On m'a demandé d'écrire des chansons et là, cette boîte-là refuse. Donc, elle s'est vraiment comme traitée, je te dirais, comme un objet.
Ben oui, puis est-ce que c'est suite à ses déclarations comme quoi elle était gay puis qu'elle avait une blonde ou ça n'a rien à voir?
Mais non, ça fait très longtemps que ça a été très longtemps la fille.
Mais je veux juste être sûre que je suis comme il faut. Oui, ça fait. Oui, non, je comprends ce que tu veux dire.
Donc, c'est vraiment juste comme si quelqu'un faisait un artiste au Québec, faisait des chansons pour Star Academy. Puis ensuite, on lui disait, même si t'es avec Musicard de ce monde, ben toi, sur scène, t'as le droit de chanter aucune chanson en lien avec nous. Mmh. Mais pourtant, c'est le même patron. Tu comprends?
Bon, il y a peut-être une chicane dont on n'est pas au courant. Anaïs Gartin-Lacroix.
Jojo Sawa.
Merci, c'est toujours un plaisir. Brittany est disparue hier des médias sociaux. Elle est revenue, juste le dire. Merci à l'équipe. Merci à vous, les auditeurs. À demain, 13h.
Cube Radio.